I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue au chat, bienvenue à vous, bienvenue à mes invités. Cette semaine, on a un programme un peu chargé, je vous préviens, on va parler de plein de sujets passionnants. On a en plus un petit nouveau qui nous rejoint.
Regardez,
bonjour à tous.
Regardez, il a une tête de nouveau.
Ah ouais, là, je vois une tête de nouveau, ça, c'est clair.
Non, mais très content de t'accueillir, Antoine. Tu nous rejoins en tant que chroniqueur ce soir. On revient sur cette folle histoire qui t'amène jusqu'ici. Mais d'abord, je présente mes autres chroniqueurs. Hardisk, bien évidemment, qui était dans une autre émission il y a une minute. C'est très impressionnant.
Twitch.tv/Hardisk, lundi, mercredi, vendredi, on parle de tech, aucun problème.
Et tu as un prénom?
Twitch.tv/Hardisk, lundi, mercredi, vendredi, 18h, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, c'est mon prénom.
Encore une téléportation que tu effectues depuis ton studio jusqu'au nôtre. Très impressionnant. Mathieu, ça va?
Ça va, écoute, ma foi, fort bien.
Oui.
Je n'ai pas la fin de cette phrase.
Forbes qui est un magazine.
Non, je m'y attendais pas. J'étais parti dans mes pensées.
On est juste content de démarrer cette émission.
Exactement.
Qui n'était pas si évidente à préparer, on vous le dit. Installez-vous confortablement. Mettez-vous bien. Vous avez vu, je vois qu'on a hâte d'arriver aux choses sérieuses. Qu'on parle de Facebook.
Ah oui.
Quelle histoire. Qu'on parle de hacking.
Quelle histoire.
Qu'on parle de publicité en ligne. Oh là 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 là. Mais quel programme.
Hâte d'avoir le. En plus, je ne connais pas les avis de d'Hardisk notamment. J'en ai un tout petit peu discuté avec Antoine, mais très rapidement. Mais pas avec Hardisk. J'ai hâte d'avoir.
Sur quoi?
Sur des
Facebook,
sujets très très polémiques.
Sur des sujets. Très quoi t'as dit?
Non, très polémique, je dis. Ah. Non. On va débattre de plein de trucs passionnants. Je vous présente tout ça dans un instant. D'abord, je vais présenter un petit peu Antoine quand même. Il faut le dire, ce matin, tu n'étais pas au courant que tu allais être ici.
Bah non, alors ce matin, c'est vrai que...
C'est la méthode underscore, ok?
J'avoue, ce matin, je vais prendre le train pour rentrer chez moi à Biarritz et je reçois un appel d'un numéro que je connais pas. Et c'est qui au téléphone? C'est Micode, quoi.
T'avais pas le numéro en plus?
Non, j'avais pas le numéro.
Il y a souvent des appels mystères comme ça dans la vie.
Je me demandais si c'était un numéro 9 ou si c'était ton vrai numéro, tu me verras après.
Mais... C'est mon numéro.
Ah, ouais. Impeccable.
Je
vais l'enregistrer, bah, c'est clair. Je suis très content d'être là. Merci beaucoup de m'inviter. C'est la première fois que je vous rencontre. Hein, donc,
bah oui. Alors, l'origin story, il faut expliquer l'origin story qui est quand même assez marrant.
Ouais.
Surtout à Hardisk, pour que tout le monde ait un peu le contexte. On se connaît depuis aujourd'hui, mais en réalité, c'est quelqu'un qui j'ai envoyé un DM en 2016.
Ouais.
Oh bon Dieu, l'an de grâce.
Ouais.
Pour quelle raison tu vas vraiment.
Est-ce qu'on a le DM, la régie?
Moi, je l'ai en plus, mais bon.
C'est con, on va faire un truc.
Non, mais franchement, c'est vraiment pour une raison très étonnante, très random, finalement. J'étais à l'université et c'était un moment où, donc en DUT informatique. Mmh. Et je me disais, mais je sais pas ce que je vais faire ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont réussi à avoir des parcours stylés après un DUT, quoi? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont allés, genre, je sais pas moi, tu sais, on prend le max, Polytechnique, tu vois?
Mmh.
Juste pour voir. Du coup, je me tape tous les gens sur Twitter qui ont fait un truc universitaire.
T'as été scrappé, genre vraiment la France entière.
Ouais. Puis X, tu vois.
Ouais.
Et vraiment, j'ai scrollé. J'ai trouvé personne clairement qui venait de DUT Info. Donc là, je me suis dit, bon.
Ça pue, c'est pas grave. PLM, non, mais, comme on dit.
c'était un peu ambitieux quand même à la base. Mais je tombe sur ton profil. Donc toi, t'as un cursus qui est d'abord universitaire et ensuite t'es arrivé à l'X. Mais après, t'es allé à HEC, mais ça, c'est vraiment...
C'est un peu plus compliqué que ça. J'étais d'abord à HEC et en fait, ouais, j'ai préparé une licence de maths en parallèle de ma première année à HEC pour pouvoir passer le concours universitaire de l'X et rentrer en double diplôme, véritable double diplôme.
Et en fait, tu m'étais trompé en plus de ça.
Mais on aurait passé le même concours si tu l'avais passé, donc tu t'étais pas si tant trompé que ça. Et je pense que c'est quelque chose, t'avais jamais dit ça, que tu voulais aller...
Non, parce que c'était vraiment une époque où je ne savais pas ce que j'allais faire, je ne savais pas que j'allais...
Dites-vous que sans YouTube, Micode, il aurait fait l'ENA, il serait actuellement au gouvernement. Fondamentalement, il y avait un plan de carrière que avez aborté.
J'avais fait du coup une autre école d'ingé, bien entendu. Mais comme beaucoup de monde, finalement, on a eu un faux école d'ingé, c'est
qu'il y a des gens très bien. Là, hein.
Et voilà, évidemment. Et donc voilà, je DM Antoine.
C'est génial.
T'as fait t'as fait un parcours qui m'intéresse et tout. T'as pas des petits tips à filer
Ah, j'en souviens. Ouais. Je m'en souviens très bien, à l'époque, t'avais un pseudo Twitter, c'était Mickaël, quoi. C'était, ouais. C'était pas Mikon, hein. T'avais pas de chaîne YouTube, etc. Et
vraiment, puis, zéro obsèque, Mikon. Ouais, c'était
incroyable. Bah,
mon pseudo, c'est mon adresse personnelle.
Je n'avais pas commencé à créer du contenu sur Internet.
Non, c'est vrai, t'avais rien vu. À l'époque, c'était juste Mickaël.
Voilà.
Ouais, c'est vrai.
Et ensuite, téléportation jusqu'à ce matin, où on a échangé un petit peu entre temps. Notamment sur une vidéo qu'on a sortie sur Apple. On va en reparler juste après, puisque notamment tu as travaillé chez Apple.
Ouais.
C'est ça qui va être intéressant sur les sujets d'aujourd'hui, notamment. On me dit dans l'oreillette que tu as aussi piraté ton lycée. C'est ton CV. Travailler chez Apple, a piraté ton lycée.
Ouais, c'est pas dans le bon ordre, mais bon. C'est ça.
Ça aurait été très drôle que tu reviennes à 40 ans au lycée dans la Meuse et que tu te dises non, j'ai un truc à régler.
Je vais les pirater.
Effectivement. Non, c'est dans l'autre ordre. C'est quoi cette histoire de piratage? Du coup, là, tu m'as.
Ouais, bah, big up à mon lycée Malraux de Biarritz, hein, pour ceux qui regardent et qui y sont. Moi, c'est vrai que je suis passionné d'informatique, ouais. En particulier d'Apple depuis l'âge de 8 ans. Et, au départ, c'était mon oncle qui était photographe, il faisait Photoshop et je trouvais ça incroyable. Il avait son Mac et je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux utiliser un ordi, ouais. Quoi. Et puis, rapidement, moi, je me suis un petit peu détourné de la photo, je me suis plus mis sur ce qui est vraiment informatique, dev, cyber. Ce genre de problématique, et c'est vrai qu'à 14 ans, après avoir progressé de mon côté, je trouvais ça cool, je me suis dit, vas-y, je vais pirater le site de mon lycée, et il s'avère que grâce à une faille API vraiment basique, sachant qu'en plus le site du lycée était géré par une entreprise, hein, c'était même pas le lycée qui allait coder, donc c'était censé être quelque chose d'assez solide, j'ai eu accès à tous les mots de passe en clair, c'est-à-dire de tous les élèves du lycée et de tous les profs. Je pouvais modifier mes notes. Je pouvais modifier les notes de mes copains.
Non,
je ne l'ai pas fait. Et ça a été reconnu que je ne l'ai pas fait. Non, je ne l'ai pas fait.
Mais pourquoi?
Parce que c'était, moi, mon challenge, c'était de faire le piratage. Mais après, c'est vrai que modifier mes notes, pour être vrai, j'avais pas besoin de les modifier.
Allez,
Non, voilà, j'avais pas besoin de les modifier. J'étais juste allé. Non, c'est une blague.
Juste le boss, en fait.
J'étais juste allé, effectivement, dire à mes potes ton mot de passe serait pas ça par hasard et tout, effectivement j'avais le mot de passe de mes
parce
potes
parce qu'ils étaient en clair du coup.
Ouais, c'était en clair,
comme toute bonne base de données, hein.
C'était en 2011.
Oh, ça n'a pas changé en 2022
au niveau du lycée, vraiment, mais
très très peu.
Non, effectivement,
je me souviens des histoires aussi de changer des notes à base de keylogger sur les ordi au moment où on se connecte avec les profs, etc. Il y avait des bails marrants qui se faisaient par d'autres.
Allez, on enchaîne.
Hardisk, tu n'es pas venu les mains vides? On m'a vendu.
Ah ouais, j'ai les mains vides alors.
On m'a vendu deux mots, fraude et TikTok. De quoi s'agit-il?
Ouais, c'est une histoire assez marrante. C'est le truc que j'ai vu dans ma veille et lunaire. En fait, il y a un échange de crypto-monnaies très connu qui s'appelle Bitfinex, qui est notamment l'éditeur du stablecoin USDT, qui est une des crypto-monnaies stables les plus connues au monde. Qui a aussi tout un tas d'histoires pas possibles. On pourra revenir peut-être un jour avec Monsieur Potter, littéralement, qui est le président de ce truc-là, qui, en gros, lui, il fait de la magie pour faire disparaître la comptabilité. Si tu veux, il est genre, voilà là, Wingardium Leviosa, il n'y a pas de compta. C'est aussi un magicien, celui-là. Mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est que l'échangeur Bitfinex s'était fait hacker il y a quelques années pour 2 ou 3 milliards de dollars, quelque chose comme ça. On n'avait jamais retrouvé les hackers jusqu'à hier dans la nuit.
Non.
Où on voit arriver ces deux gros ozos qui seraient apparemment les hackers de Bitfinex pour 2 ou 3 milliards de dollars, je rappelle. Et donc, ces deux jeunes gens qui
ça
sont
de
New York, qui sont notamment
magnifique.
Des TikTokers aujourd'hui et qui ont édité d'ailleurs un clip de rap. On peut peut-être passer un extrait.
Avec grand plaisir.
Voilà, à quoi ça ressemble.
C'était les rappeurs hackers de crypto.
Et voilà, je sais pas si Gabin a l'extrait.
Gabin l'a totalement.
Je pense que comme nom de groupe en tout cas. Oui, non, il faut pas jouer la synchro. C'est vraiment.
Ah voilà.
Ah, peut-être un peu de son là.
Si on a peut-être un petit peu de son éventuellement. Voilà.
C'est pour les entrepreneurs, les hackers. Oh non, mais j'adore cette timeline.
Donc ça a piraté Bitfinex.
Donc Bitfinex. Donc fondamentalement, ce que les gens commencent à se dire, c'est que peut-être que ces deux ozos sont peut-être des gens juste sur qui on fait retomber la faute, parce que faut savoir qu'ils se sont fait péter parce qu'ils avaient dans leur Google Drive un fichier Excel avec les clés privées de wallets qui ont petite centaine de millions de dollars au calme, et qu'ils ont essayé, et le FBI est tombé dessus à cause de ça, ils ont essayé d'acheter des cartes cadeaux Walmart, qui est l'équivalent de Auchan ou de Carrefour ici,
ouais, Carrefour, ouais,
avec les fonds pour dépenser des fonds volés. Donc je... Ou alors, ils se sont fait pirater par les deux plus grands zozos, genre le Bonnie and Clyde, mais genre deux IQ, tu vois. Soit ces deux zozos, on leur fait porter le chapeau et ils ont en fait racheté les codes quelque part, on ne sait pas encore.
Je ne peux pas croire. En fait, ce serait un coup monté trop bien ficelé pour...
Mais est-ce que tu crois vraiment que ces gens ont déjà lancé une VM, par exemple? Non, je sais pas, je sens vouloir faire d'a priori.
C'est quoi le mode opératoire qui est donné
sur le
c'est
hacking vraiment le
Drive, c'est encore super, super tôt. Pour l'instant, les infos qu'on a, c'est qu'ils se sont fait choper en essayant d'acheter des cartes cadeaux contre des bitcoins, okay, une carte cadeau Walmart, et qu'ils avaient toutes les infos sur un Google Drive plus standard.
Après, ah oui, en vrai...
Incroyable.
Alors je veux pas te donner des conseils de blanchiment d'argent.
Alors, pourtant tu t'y connais vachement bien. Vous mais savez non, mais... qu'on est à Malte à l'heure actuelle. Et...
Non mais en fait, presque... j'ai processé l'information. Je me dis tiens, qu'est-ce que je vais dire. Je le dis quand même. Je crois que c'est une bonne façon de blanchir de la crypto-monnaie, de prendre des cartes cadeaux Walmart, non?
En fait, il y a pas vraiment de bonne façon de blanchir des crypto-monnaies et ces gens-là. T'as vu?
Non, pas de conseils. Mais la meilleure manière. En
non, il y a pas vraiment de moyen, simplement parce que le cœur de ces technos-là, c'est la blockchain, et la blockchain, elle est publique. C'est pour ça que les gens, d'ailleurs, qui hackent ces réseaux-là, très souvent, finissent par se faire choper, parce qu'en fait, tu peux remonter toutes les transactions et tout le monde peut le faire. Donc, en fait, si tu vas sur Bitrefill ou sur un site comme ça pour acheter une carte cadeau au Target, Walmart, etc., ben, il y a une trace à vie indélébile.
Tout, ça marche
c'est
pas le chat, ça marche pas.
Partager, donc, non, en revanche, si vous voulez blanchir de l'argent, achetez un kebab à Bobigny. Prenez le cash et le cash, tiens, voilà. Là, il y a plus de, mais n'hésitez pas.
Open the kebab.
On a une théorie intéressante dans le chat. Ou alors, ils font semblant d'être cons pour pas qu'on les suspecte.
Ce qui serait le meilleur move. Ce qui serait incroyable. En réalité,
imagine. Ils ont déjà fait pécho, donc.
Oui, c'est ça.
Non, c'est.
Mais
ça n'a pas marché,
quoi.
Imagine, t'es sur le plus gros casse du siècle. Bon, pour se couvrir, on fait.
TikTok.
Mais non mais gars, en vrai c'est tellement stupide que ça pourrait marcher.
Non mais parce que pour se cacher parfois, le fait de se montrer à outrance, ça peut marcher.
C'est vrai.
Et voilà. Caché en plein jour en fait.
Je vois qu'il y a
les spécialistes du chat qui parlent de Monero. T'as vraiment des abonnés qui font de la fraude fiscale. C'est assez,
Monero, c'est pas non plus si niche. Un peu.
Alors c'est quoi Monero?
Monero, c'est une crypto-monnaie qui, en gros, a comme but de te proposer de faire des paiements anonymes. C'est-à-dire qu'en gros, les transactions, c'est un peu, alors, je vais faire de la vulgarisation fois 1000 et tout le chat dans 5 secondes va faire, c'est pas du tout ça!
Non, parce que chez nous, ils sont très sympathiques!
Oui. Et toc! Mais en gros, c'est, si tu connais le réseau Tor, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire qu'en gros, ton paiement va être splitté sur 4 trucs, puis 3 trucs, puis 2 trucs, puis 2 machins, sur différents layers.
Alors, quelqu'un m'a dit, c'est pas du tout ça, avant même que tu ne commences.
très fort. Mais donc voilà, c'est pas exactement ça, mais c'est l'idée.
En gros,
quoi.
C'est, on prend Bitcoin, et comment on arrive à faire en sorte que la pseudonymisation de Bitcoin devienne, enfin, un vrai anonymat, ou même avec l'identifiant de ton porte-monaie, on soit pas en mesure de savoir ce que tu dépenses ou.
Il y a des fans qui nous disent, ils parlent de blanchiment d'argent, on va se faire souhaiter. On va peut-être changer de sujet.
C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça.
Moi, un truc qui m'est arrivé cette semaine, je me suis gardé ça pour un score. Je voulais faire une tâche extrêmement simple.
Du coup, c'est atroce parce qu'il nous raconte plus rien la semaine. Ouais. Il déballe.
Je garde tout pour
le mercredi.
Non, mais je voulais faire une tâche extrêmement simple et classique dans la vie d'un chef d'entreprise finalement, qui était d'envoyer des coordonnées de paiement à un des organismes qui existent pour la gestion notamment des alternants.
Oh, j'ai le même problème en ce moment.
Alors,
je connais aussi.
Vous allez être du coup d'accord avec moi ou pas, on va voir.
Plus de la merde.
Il faut se connecter à une plateforme qui s'appelle Silae. Ça te dit quelque chose?
Moi, ouais, pas celle-là, mais j'en ai une autre, t'inquiète.
Voilà.
Moi, j'ai l'AFDAS, c'est pas rien.
Écoutez-moi bien. Il faut utiliser Internet Explorer. J'ai essayé vraiment l'ensemble
plus, hein,
des navigateurs.
Je peux me permettre.
Qui n'existe normalement plus.
Ah ouais. Normalement, n'existe plus.
Donc moi j'arrive au début, je lance Brave qui est mon navigateur, ça ne marche pas. Il me dit, on essaie Safari. Bon déjà les pages chargent, mais ça reste bloqué sur la connexion en fait. Et en fait, je me dis, bon, je suis quand même bien content d'avoir Windows au bureau, juste pour aller ouvrir la version d'Internet Explorer dépassée et charger le site de gouvernement.
Mais what?
Juste pour faire une procédure obligatoire. Hein. C'est pas comme si c'était un petit bonus pour ça.
T'imagines, t'as juste ton Mac, tu vois?
Voilà, non, c'était...
Ah, c'est bon. Donc, t'as une VM, si tu veux.
Mais...
qui déclare un alternant?
C'est vraiment tout, c'est tout. Et donc, il faut se rendre sur Internet Explorer. Et il y a toute une procédure, il y a tout un PDF qui explique les étapes, parce que c'est pas juste se connecter avec Internet Explorer. Il faut installer Java sur ton ordinateur.
Oh, putain.
Java qui n'est pas installé par défaut du tout. Mmh. Ensuite, il faut aller dans les paramètres avancés de Java et ajouter en liste blanche le site en question afin que Java puisse charger le module. D'accord?
Quel enfer.
Ensuite, tu vas sur le site, ça ouvre Java. Donc, c'est comme si elle lançait un programme sur ton ordi. Hein. Enfin, ça fonctionne. Certains sites fonctionnaient comme ça il y a une époque, mais j'avais jamais vu ça, tu vois, moi, depuis 6 ans quand même. Et donc, il y a ce programme qui s'affiche et il cherche un certificat de signature. Il n'y en avait pas sur l'ordi, tu vois. Je me dis, un certificat d'authentification, etc. Bah, ça doit probablement être une vieille techno que je connais pas, je vais la regarder, un truc sur Java, etc. Il faut installer un certificat et puis voilà, quoi, ça va fonctionner. Tout ça pour faire une bête signature électronique. Hein. Mmh. Eh bien, écoute-moi bien, il s'agit d'une procédure que je ne connaissais pas, qui fait que tu as une petite sélection d'entreprises, genre 6, 7 entreprises, qui peuvent fournir ces certificats pour t'authentifier auprès du gouvernement. Ça coûte minimum 40 balles par an.
Quel scam! Quel scam!
Non, mais c'est juste, je voulais, à la base, hein, je voulais déclarer des alternants sans envoyer une lettre à la poste, hein. Parce que j'ai fini par faire ça. Hein.
Ah, t'as fini par envoyer la lettre.
J'ai pas le choix.
Bah ouais.
Parce que sinon, je devais m'engager sur 4 ans avec un service de signature d'une sombre entreprise pour me permettre de m'authentifier auprès de...
Oh là là, quel enfer.
Alors, je sais que ça fait très très... Et c'est nul, les institutions, elles sont pas modernes.
Bah, c'est vrai.
Mais là, quand même...
Il y a des trucs qui fonctionnent très bien.
On atteint.
T'as mal fait les choses. En fait, c'était fait pour être utilisé avec wget et grepe, tu vois. C'est comme ça qu'il fallait trouver le formulaire. En fait, c'est une escape room. C'est ça que t'as pas compris. C'est qui?
Non, mais voilà, c'est devenu drôle à la fin. Parce que au début, j'étais en pleurs et puis à la fin, je me suis dit.
Quand il a vu le pop-up installer Silverlight, il a fait.
J'ai pris du recul, je me suis regardé, je me suis dit, putain, c'est quand même beau. Je suis sur Internet Explorer avec
la French Tech, évidemment,
un module Java en train d'essayer d'acheter un certificat à 50 balles par an.
C'était sympa d'aller à la poste. Tu devais pas aller plus longtemps.
Alors, j'avoue, j'ai découvert un super service donc de la poste.
Ah oui, que tu envoies en ligne, c'est
ah,
ça.
Ah, le courrier en ligne.
J'ai quand même me suis démerdé pour pas bouger mon cul de ma chaise.
C'est
ouais, c'est très cool ça.
Mais quand même ça m'a assez ouais, le web 3 on n'y est pas encore effectivement.
Oui, non, il y a pas de login MetaMask, si tu veux, on n'en est pas là. Là on en est à se loguer sur Abo Hotel. Fondamentalement, si on arrive à passer cette étape,
Hotel.
Je pense qu'on pourra aller un peu plus loin, tu vois.
Je vous le disais, on a un programme chargé aujourd'hui. On va commencer avec un petit source internet où il va être question de FSB, service de renseignement russe de cybercriminels, les coquins. Petite chronique que nous a préparée Antoine, qui nous régale. Un débat ensuite sur la potentielle disparition de Facebook en Europe. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est
Facebook va disparaître pour interrogation?
Voilà, exactement. T'as tout compris.
Okay.
C'est vraiment le titre. Enfin, un jeu sous la forme d'un quiz que nous a préparé notre cher Mathieu.
Waouh.
Quel programme, je vous disais.
Avec une
Mais pour
surprise.
Commencer, comme promis, El Famoso source internet. C'est parti. On s'est dit, voilà, première émission, pourquoi pas directement commencer avec...
Dans la sauce.
Bah, tout à fait, je suis pas venu les mains vides. Tu m'appelles ce matin
allez,
pour déjà participer et tu me dis à 14h, est-ce que ça te dit pas de faire la chronique? Bah, en vrai, je trouvais ça très cool.
Challenge
donc, comment?
Challenge accepté.
Ah oui, challenge accepté, carrément.
Et puis tu connais non mais il faut le dire, tu connais le sujet aussi.
Oui, non mais
on a pas pris quelqu'un en random dans la rue.
On l'a trouvé.
Tu veux parler de ça?
J'allais faire cette vanne.
C'est vrai que j'avais trouvé un sujet qui m'intéressait, que j'avais un peu suivi, donc c'est assez cool. Aujourd'hui, moi j'ai une question pour vous, est-ce que vous connaissez Sodi no Kibi?
Sodi no Kibi.
Non. Eh bien, Sodi no Kibi, en fait, c'est un groupe de hackers, peut-être que vous avez peut-être entendu sous le nom de Reveal.
Ouais.
Reveal.
Si, okay.
Je vais l'appeler Reveal tout le nom de la chronique,
ah,
mais
si, bon. Okay.
Parce que Reveal, ça va être compliqué. c'est un des plus importants réseaux de cybercriminels au monde. Et eux, pour se cacher, ils ont pas utilisé TikTok, tu vois, donc,
ils ont pas routé leur, c'est pas un proxy, quoi.
C'était un peu plus solide que ça, mais ça a pas tenu quand même. Ils font partie, notamment, des rares entités à avoir déjoué, en fait, le culte du secret d'Apple, et c'est pour ça que c'est un groupe qui me passionne. Ils ont osé, en fait, utiliser un ransomware pour faire chanter Apple. Et ils ont leaké les plans du nouveau MacBook Pro, donc celui-là, celui qui est devant moi.
Ça a marché.
Ouais, du nouveau M1. Ouais. Enfin, ça a marché. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire. On sait, ils ont publié
le leak.
Ouais, le leak des MacBook Pro, donc des plans en fait industriels du MacBook. Plus de 6 mois avant la présentation officielle, et ils ont dit on a plein d'autres trucs en stock. Si vous payez pas, on en lit d'autres.
Ah si, j'avais vu.
C'est vrai que je sais pas. J'ai essayé de regarder ce qui s'était passé derrière et pas grand-chose. Alors je sais pas si Apple finalement s'est arrangé.
Je savais pas que c'était eux, tu vois. Ouais, j'avais suivi qu'il y avait eu des leaks ou en mode des menaces.
Mais c'est vrai que ça m'étonne que ça arrive pas plus souvent parce que Apple, c'est pas qu'ils ont de l'argent, c'est qu'ils sont l'argent. Ces gens-là, tu te dis bon peut-être.
Je pense que ça doit leur arriver. Ouais. Mais on sait pas comment ça s'est arrangé. C'est vrai que on n'a pas eu trop d'infos derrière. Soit peut-être que c'était un mensonge aussi de reveal. Qu'ils n'avaient pas vraiment d'autres plans, on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et il s'avère que début janvier, donc il y a à peu près un mois, après des mois de collaboration entre les services secrets américains et les services secrets donc russes, le FSB, le successeur du KGB, qui ont abouti donc à plus de 25 perquisitions et 14 interpellations à travers le monde, la Russie a annoncé le démantèlement de ce réseau. Et je pense que, étant donné que c'est un réseau immense qui est tentaculaire, la question intéressante à se poser, c'est de savoir si Reveal est vraiment mort. Et donc, voilà.
C'est rigolo, en plus, Reveal.
Est-ce que Reveal
est vraiment mort.
Oh là
là. Tu l'as fait exprès ou pas?
C'est Resident Reveal ou quoi?
Allez.
Pour ça, je vais revenir rapidement sur la naissance un petit peu du réseau. Il y a plusieurs tests qui existent à ce jour sur sa naissance. Moi, j'ai choisi de vous présenter celle qui est la plus crédible, celle qu'on pense vraiment être la vraie, disons, ouais. Même si on pourra trouver plein d'autres explications sur Internet. Tout porte à croire que, en fait, l'histoire commence en Russie en 2019, lorsqu'un groupe de hackers qui s'appelle un Grand Crab, donc encore un nom sympathique, annonce complètement arrêter ses activités, mais pas quand même... sans rien, ils avaient réussi à capter 2 milliards de dollars de rançon et de toutes sortes de crypto et donc ils se sont dit OK, on arrête
petit
voilà, petit niveau.
Ça fait quelques cas faire four
la foire fouille là, tu t'y mets.
Là on pourrait se dire que judicieusement les mondes dérivés, ils se disent ouais, bon c'est cool, on arrête. On s'est pas fait prendre, on s'est mis bien. Maintenant, je pense que c'est bien, 2 milliards de dollars, c'est
suffisant.
Bonne carrière. Mais apparemment, on partage en 5.
Apparemment, sur un livret A, à la fin, ça fait beaucoup. Hein.
Apparemment, tout le monde dans le groupe semblait pas être trop d'accord, parce qu'il s'avère qu'au même moment, il y a un autre réseau de cybercriminels qui avait le même modus operandi, le même mode opératoire. Qui a commencé à émerger, donc c'est un mode opératoire qui utilise le ransomware et à faire des attaques d'envergure à travers le monde, et donc ce groupe-là évidemment c'est Reveal, et donc on pense que la théorie la plus acceptée, c'est que Reveal est une forme de réincarnation de Grand Crab, ou d'au moins qu'elle a été créée par des anciens membres de Grand Crab. Le groupe a connu une ascension fulgurante très rapidement. Un an après leur création, ils avaient vraiment fait des centaines de victimes, et c'était pas des petites victimes, on parle pas de particuliers, on parle de grosses boîtes à travers le monde. Donc il y a des boîtes en France comme Pierre Fabre, le groupe de pharmacie, des groupes taïwanais comme Acer, JBS au Brésil qui a une immense boîte dans l'industrie de la viande, ouais. En fait hein. Et moi je trouve que leur apogée a été marquée vraiment par le cas d'Apple, donc je vais revenir un peu plus en détail dessus. Donc Apple, comme je l'ai dit au début, c'est vrai que c'est très important. Moi, quand j'étais, on m'a fait signer, même en tant que j'étais en stage, tu vois, si tu veux, et juste j'avais pas une non disclosure agreement à signer, mais j'en avais
42.
J'en avais plusieurs, disons, et ensuite j'avais des formations sur la confidentialité, etc. Donc c'est quelque chose qui est pris très au sérieux par Apple.
J'adorerais savoir ce qui t'apprennent là-dedans.
C'est dans la NDA justement. Tu
veux bien sûr.
Quand tu parles des formations, les formations c'est un peu. Bon voilà, j'adore Apple, je suis toujours passionné, mais les formations c'est un peu bullshit quand même. Tu les fais parce qu'on te les donne et qu'il faut qu'elles soient validées, mais il y a pas de formation incroyable. C'est juste
entraîner à te taire.
En fait, on t'apprend le motto d'Apple qui est I could not confirm nor deny, c'est-à-dire je peux pas confirmer d'NDA, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on te demande, alors je sais pas, bon, j'en étais pas à ce niveau de disclosure, hein, mais si on te demande alors le nouvel iPhone et tout, bah tu dis
je ne sais pas.
En gros, tu dis même pas je ne sais pas, tu dis la vraie phrase qu'ils donnent, c'est je ne peux ni confirmer ni nier, quoi.
D'accord.
Tu sais que j'ai petite anecdote, je me permets, j'ai un ami, un bon ami, et j'ai fait mes études avec lui et tout. T'es un bâtard.
Allez.
J'ai un ami qui travaille à Apple. Et du coup, je lui ai demandé, bah, du coup, tu fais quoi, Apple? Tu travailles pour quoi et tout? Ça va, toi?
Ah ouais.
C'est mon pote! Je peux pas savoir ce qu'il fait là-bas?
Non, tu peux pas. Non.
C'est une boîte de renseignements, en fait.
Ouais. Donc, en gros, je sais à peu près son poste, mais je sais pas du tout pour quelle équipe, pour quel projet, pour. Il travaille. Et bah, du coup, quand tu dois faire parler en mode comment ça va la vie et tout machin, c'est galère, hein, quand tu sais pas ce que la personne fait en face.
Je pense pas que ton pote est juste accro au crack. Je pense que c'est une couverture, Mathieu, faudrait creuser.
Écoute, je creuserai. Mais
je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que même entre équipes Apple, les équipes qui peuvent travailler en face de toi, et ben, t'es censé, en fait, quand tu vas t'adresser à une personne, il y a un site qui tu peux vérifier la disclosure de la personne en face. Et tu peux avant de lui parler, en fait,
tu
chacun est disclose sur des projets très très précis, mais tu peux être disclose vraiment sur ne serait-ce que j'ai envie de dire un menu au sein d'une application, tu vois, c'est ta disclosure, et donc ça peut être vraiment très précis. Après, il y en a qui sont disclose plus large pour tout iOS, pour tout macOS, pour tout les iPhones.
Et donc tu scannes le badge du zozo.
Non, tu scannes pas son badge, mais en gros tu cherches son nom dans la lumière et tu regardes dans les disclosures si il a effectivement les disclosures qui correspondent, et que tu peux lui parler.
Mais c'est l'AREA 51, en fait.
Ouais. Il faut faire gaffe, hein, parce que pas souvent tu peux aussi recevoir des mails un petit peu en mode, c'est pas vraiment des mails de phishing, mais des mails où t'as du spoofing d'adresse Apple, etc. Ouais. Tu le reçois dans ta boîte et c'était quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre qui te dit, est-ce que tu peux me donner les détails sur l'iPhone et tout. Et là, normalement, t'es censé vérifier vraiment que cette personne elle existe dans l'annuaire, que c'est vraiment elle qui t'a contacté, tu vois. Enfin, c'est.
Oh le bordel.
Voilà. Ça, c'est dans les cas les plus extrêmes quand t'as des disclosures assez poussées. Voilà. Bon, pour fermer cette parenthèse, en avril 2021, donc Reveal leak les schémas. Ils font du chantage, ils demandent plusieurs millions de dollars à Apple. Donc là, on peut voir un schéma. Je crois qu'on en a un en super. Et donc ça, c'est le genre de schéma qui ont fuité. Et on voit effectivement que ça correspond au design des nouveaux MacBook Pro, donc qui était prévu pour
six mois
plus tard, en fait. Hein. Voilà. simplement, après toutes ces formes d'attaques, donc tout ça, c'est souvent un ransomware que eux ils utilisent, mais ils vont encore plus loin et ils se diversifient dans leur business model et ils font ce qu'on appelle, enfin vous en avez déjà parlé chez Underscore, j'ai vu ça récemment, c'est le ransomware as a service. Donc hyper intéressant, ils proposent de louer leur logiciel malveillant, leur ransomware, pour que des organisations, des entreprises qu'ils appellent les affiliés puissent s'en servir à leur guise contre les targets, les cibles qu'ils souhaitent. Donc ça peut être un État par exemple, et qui va attaquer un autre État, alors un État vraiment malveillant, mais il y en a. Hein.
Et donc, ils vendent la technique qu'ils ont, comment ils arrivent à construire un bon logiciel malveillant, et derrière, toi, t'es juste le vendeur, entre guillemets, du logiciel.
Mais c'est vraiment as a service, dans le sens où c'est limite, ils te disent, ok, on te file ça, et toi, tu mets juste les coordonnées de ta target, et tu cliques sur un bouton. C'est assez impressionnant de faire ça. Bref, à la mi-2021, ils sont au top. Voilà, Reveal, c'est vraiment top du succès, ils sont hyper lucratifs et ça se passe bien pour eux. Et là, ça commence à sentir le roussi. Parce qu'ils sont au top, mais en même temps, ils vont trop loin. Ils ont les yeux plus gros que le ventre, vraiment. Ils commencent, donc comme j'en ai parlé, à attaquer de nombreuses entreprises, des entreprises aux US, etc. Mais aussi, aux US, ils attaquent des administrations et des services publics, comme plusieurs mairies au Texas. Il y a eu la cyberattaque aussi des Colonial Pipelines, dont vous avez parlé récemment.
Bah, on avait justement parlé de l'histoire des affiliés et tout.
Ouais, c'est ça.
Il y a une hypothèse comme quoi c'était un affilié un peu en mode YOLO, qui s'était trompé de cible, quoi, ce que tu viens de dire.
Exactement. Et là, pour le coup, les Américains, ils font de ce sujet-là une prio. Ils se disent, là, ça devient trop grave. Et c'est un peu le début de la descente aux enfers pour Evil.
Mais c'était peut-être juste après. Ouais. Je sais que Joe Biden avait pris la parole sur ce sujet juste après Colonial Pipeline. Donc, je sais pas si ça marche dans ta timeline, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça.
Ouais, ça doit un peu bien se caler, ouais.
C'était il y a genre 6 mois, quoi.
Ouais, c'est ça, ça correspond. Okay. C'est à la moitié de 2021. Et là, il se passe un truc assez incroyable, qui doit arriver plus souvent que ce qu'on ne le pense. Il y a un début de collaboration, il y a les Américains, ils demandent vraiment aux services secrets russes de collaborer avec eux et de dire, écoute,
incroyable.
Vraiment, on doit travailler ensemble, il faut qu'on arrête. ça peut pas durer. Et donc là, c'est vrai que j'avais prévu une petite parenthèse qui est assez intéressante, c'est que géopolitiquement, on sait que c'est tendu en plus en ce moment entre voilà, les États-Unis, la Russie, notamment au sujet de l'Ukraine. Donc pour faire très vite, on peut avoir une petite carte sur l'Ukraine aussi que j'avais mise. C'est pas le truc, c'est pas le cœur du sujet, mais c'est pour montrer en fait voilà l'Ukraine qui fait partie historiquement du bloc de l'Est, se rapproche de l'OTAN, ça pose de gros problèmes avec les États-Unis, donc gros conflit géopolitique. On a vu la photo aussi avec Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui sont très éloignés sur la table. Et c'est tout ça pour dire qu'en fait c'est fou de voir à quel point la sécurité informatique c'est majeur, c'est un sujet
tellement
majeur
important qu'on fait une trêve.
Ça dépasse les conflits géopolitiques qui sont présentés généralement par les médias et massivement reliés, et on dépasse ça pour aller combattre un groupe de hackers qui a priori se localise partout dans le monde, mais dont le cœur est en Russie. Très rapidement, la collaboration porte ses fruits. En octobre 2021, lors d'une opération, enfin le FBI parvenant au cours d'une opération à prendre Reveal à son propre jeu. Reveal se fait piéger. En fait, c'est assez malin ce qu'ont fait les services secrets américains. Ils ont en fait posé un ransomware. Enfin, ils ont infecté les serveurs de sauvegarde de Reveal. Ok. Et à un moment, Reveal a eu besoin de restaurer toute son infra à partir des serveurs de sauvegarde. Et en faisant ça, bien, ils se sont contaminés leur infra principale.
Et ils ont vraiment fait no you, quoi.
Ouais, c'est passé pour les serveurs de sauvegarde. Ils se sont contaminés, ils se sont bousillés eux-mêmes, quoi. Ils s'en sont pas rendu compte. C'était un ransomware aussi qui était utilisé par les US à ce moment-là.
Ils ont piégé un groupe de ransomware avec un ransomware qui trichait.
Alors, effectivement, et là, ils se retrouvent dans une situation, pour les États-Unis, enfin, pour les services secrets, c'est idéal parce qu'ils sont dans une situation où ils ont réussi à paralyser complètement les serveurs de Reveal et en même temps, ils collectent des données, des identifiants de connexion.
Méga malin.
Et oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment la chute libre pour Reveal. Donc ça, là, on est en octobre 2021 et dès début novembre, les premières têtes tombent à travers le monde, donc en Ukraine, en Roumanie, au Koweït, en Corée du Sud. Et il y a un mois, donc même pas un mois, le 14 janvier.
Ils arrivent même à un peu à coordonner les arrestations.
Il y a des conséquences immédiates et une coordination en fait. C'est principalement mené par les États-Unis, par la Russie en tout cas dans ce qui est communiqué. Ouais. Mais Interpol participe, Europol aussi. Donc c'est vous voyez tout le monde
des arrestations partout.
Collabore dans le but vraiment d'arrêter ce carnage quoi. Le 14 janvier 2021, donc il y a un peu moins d'un mois, la Russie annonce le démantèlement de Reveal. Ils ont collecté lors de cette perquisition-là plusieurs millions d'euros, des wallets de crypto-monnaies en pagaille. Il y a eu 20 voitures de luxe aussi qui ont été prises au moment.
Un TikToker également.
Sur la cybercriminalité, c'est toujours un truc qui m'a questionné. C'est, tu vois, tu dis ils ont saisi tout ça et tout machin. Qui achète 20 voitures?
Après,
non vraiment.
Ils sont 14 à être interpellés, et il y en a une par personne.
Mais t'as vraiment.
Ouais, d'accord. Ouais. Non, mais tu prends une Mustang, une Ferrari, une Porsche.
Ouais. Tu forces un peu quand même. Non, je sais pas.
Enfin, si tu fais dans un but de collection aussi, tu vois, t'as investi ton argent dans une voiture que tu revendras plus tard. Mais je suis d'accord.
Alors sans name drop, moi je connais des youtubeurs qui ont plusieurs voitures.
Je connais des youtubeurs parfois ils gardent une voiture devant et derrière une à d'autres.
Est-ce que tu connais des youtubeurs criminels?
Moi en tout cas, je suis venu ici, j'ai vu que des vélos électriques donc.
Oui.
Je sais pas si youtubeur
je vais rater ma Tesla et donc
Alors parce que moi je veux juste je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ils ont réussi à le premier point d'entrée sur lequel ils sont arrivés. C'était le groupe de hackers qui était en Russie, c'est ça?
Ouais, bah en fait, ouais, c'est ça. C'était partout dans le monde, mais il y a un cœur en Russie, ouais.
Et à partir de là, ils se sont installés là, on va dire. Et ensuite, ils ont profité de cette position-là pour aller réussir à infiltrer l'ensemble ou une bonne partie de membres du groupe de par le monde, c'est ça?
Tout n'est pas communiqué, mais a priori, c'est ça. Parce que quand ils ont accès au ransomware, ils ont accès à des échanges d'informations, peut-être des adresses IP, même que tu sois protégé, hein, on peut toujours remonter à toi.
Et peut-être qu'ils se méfiaient pas entre les membres du groupe.
Tout à fait. Voilà, il y a toujours un moment quand ça fait 2 ans que tu travailles, que le business va bien, tu fais des erreurs humaines, quoi, simplement, hein, même si tu sais que t'es le meilleur dans la cybercriminel, tu peux te faire lâcher des choses qu'il fallait pas le faire, quoi. C'est trop tard. Après, c'est logué, tout de même. Une fois que c'est logué, tu vas pas remonter dans les logs pour.
Je suis pas sûr que ce soit les gens qui prennent le plus de précautions. En fait, c'est des brutes, ils vont réussir à faire un ransomware de ouf, mais eux-mêmes. Bon, je pense qu'ils sécurisent un peu leur environnement de travail, mais
10 ans de métier dans dans le ransomware.
Ah, j'ai peut-être dit de conneries. C'est vrai.
Mais moi, j'ai vu pas mal de mèmes comme quoi il y avait cette question parce que la proximité entre le gouvernement russe, les services secrets russes et les groupes de hackers, de cybercriminels russes, elle est toujours un peu questionnée. C'est-à-dire que il y a plein de doutes sur le fait qu'il y a il peut y avoir des packs de non-agression, par exemple, à la comme les corsaires en fait dans le temps, où en mode vous pouvez chasser où vous voulez tant que c'est pas sur le sol russe.
Le fameux truc qui se lance pas si les machines sont en russe, genre le ransomware qui va pas se lancer s'il y a détecté que la machine
exactement. J'ai vu plein de mèmes en mode bon c'est bon, ils nous servent plus à rien, on les a bien utilisés. Maintenant on les arrête et on met la caméra. Le chat dit que ça pourrait finir sur Netflix. Franchement, ce genre d'histoire.
Il y a moyen.
Allez, on t'achète un documentaire.
C'est parti.
Et du coup, en conclusion, est-ce que Reville est vraiment mort? C'était ça un peu la question au départ. Et la réponse reste difficile quand même. Effectivement, il y a un succès de la collaboration internationale pour les arrêter. Il y a une interpellation des têtes du réseau quand même et du cœur du réseau. Une confiscation une grande partie du matériel informatique et des rançons qui avaient été collectées. Mais le réseau, comme j'ai dit, il est quand même tentaculaire, donc il reste sûrement des membres qui n'ont pas été interpellés. Et en fait, se battre contre ce réseau de cybercriminels, c'est un peu comme Hercule, tu vois, qui se bat contre une hydre. Tu coupes une tête, il en repousse deux, et c'est exactement voilà ce qui s'était passé avec Grand Crabe, qui s'était déjà réincarné.
C'est fini, en fait, il reforme des groupes.
Donc Reville va renaître.
Sous un autre nom, sûrement, ou peut-être même renaître sous forme de plus petits groupes, mais tout à fait, je pense que c'est tout à fait envisageable.
J'ai beaucoup trop de blagues avec Reville. Allez, vraiment.
C'est comme d'autres formes de criminalité, au final, où tu as des groupes de deals ou de gangs, etc. C'est pas une arrestation qui va faire tomber l'entièreté du business.
Oui, mais en plus, tu as cet aspect international. Tu vois, les gens qui sont dispatchés à travers le monde, donc tous les arrêter, c'est encore plus difficile de potentiellement arrêter des gens qui sont tous regroupés au même endroit, quoi.
Donc clairement hyper intéressant, mais surtout le côté ransomwareisé.
Ouais.
J'ai bien aimé
ça, c'est ouf.
Ouais, c'est beau,
un petit coup de karma. Ça fait plaisir.
Et bim,
très intéressant, merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous, je suis très content d'avoir pu partager cette histoire avec vous.
Il y a le chat qui a demandé à raison, parce que je suis passé beaucoup trop vite dans cette introduction, quel est ton métier finalement?
Ah oui, tout à fait. C'est assez intéressant, c'est vrai, en plus je voulais en parler.
T'as fait un stage chez Apple, ça on a capté.
Voilà. Alors à la fin de mon stage, moi j'étais passionné d'Apple, j'ai trop kiffé, je suis allé aux US, j'ai vu le campus de Cupertino, je suis très heureux d'avoir fait ça, je suis allé étudier même un petit peu à l'université de Berkeley à la fin de mes études. Mais j'ai eu une passion pour l'entrepreneuriat qui s'est développée en fait en parallèle de mes études. Et donc en plus de mes études d'intelligence artificielle et de pentest, de cybersécurité, grâce à ces études-là, je me suis dit allez,
monte ta boîte.
C'est bon, faut que je monte ma boîte, intelligence artificielle cybersécurité, il y a quelque chose à faire.
Oui, là t'es pas mal.
Voilà.
Franchement,
non, moi j'y crois pas. Je me suis commercialement pas ouf.
Je me suis souvenu
le fax.
Moi, j'aurais dit le fax.
C'est dur. Effectivement, et je me suis souvenu de cette faille d'API que j'avais pu exploiter un petit peu au lycée. Et c'est là que, avec mon associé, que je salue aussi, Tristan, on s'est mis à travailler, en fait, sur une intelligence artificielle de pen test, donc de test de sécurité automatisé, des API, en fait. Pourquoi les API? Les API, c'est vraiment le hub global des communications sur Internet. C'est toutes les applications, que ce soit des applications mobiles, des serveurs web, etc. Elles communiquent, avec les bases de données au travers des API. Et il s'avère que les API, en fait, c'est une véritable passoire. C'est là que, il y a des problèmes de contrôle d'accès, de leak de données, d'injection en tout genre, XSS, SQL, des vulnérabilités, de DDoS, donc des déni de service qui rendent des services indisponibles. Et c'est là qu'en mettant en place cette solution, on est très heureux parce qu'en fait, on rend la sécurité accessible à tous. Et donc, je suis un peu passé de l'autre côté de la barrière par rapport à quand j'étais étudiant. Donc, pour l'instant, on a des milliers de développeurs qui ont utilisé notre petit outil. Donc, on a libéré un outil qui s'appelle GraphQL.security, pour ceux qui veulent voir. C'est vraiment le nom de domaine. La boîte, d'ailleurs, je pense que je l'ai pas dit, la boîte s'appelle Escape.tech, Escape Technologies. Et effectivement, aujourd'hui, on s'est adressé d'abord aux petits devs, et maintenant notre objectif c'est vraiment de scaler sur des plus grosses entreprises. Donc c'est vrai qu'on a des
défis. Et de faire sécuriser leur API.
Tout à fait.
Qui sont les API, comme tu disais, souvent des gruyères.
Exactement. On a des défis techniques incroyables en cyber, en IA, en théorie des graphes, en maths, en back-end, en ops, en UX.
Que des trucs que tu crois pas trop d'ailleurs.
On est en voyage temporel, en sandwich, tout.
On est une équipe de 10 aujourd'hui. On a une stack ultra moderne. On vient de faire une grosse levée de fonds avec des business angels très stylés. Donc vous pouvez regarder, on a des business angels de Datadog et de Tenable qui sont les fondateurs. On a le fondateur de Datadog.
Ton pitch m'a fait penser à Datadog.
Ouais. Ben voilà,
je trouve qu'il y a
quelqu'un dans le chat qui est dans une jeunesse entreprise que vous avez sollicité. C'est vraiment, il y a des
c'est incroyable.
Qui se font, c'est très drôle.
Bah communiquez entre vous.
Vous gênez pas.
Tu as créé une boîte.
Ouais.
Via une faille que tu as découvert au lycée. C'est le rêve de n'importe quel gamin.
Bah c'est la source d'inspiration, j'avoue. Et puis en plus mon associé
dans le pitch, ça fait bien.
Ah mais ouais,
bien sûr.
J'ai hacké mon lycée. Et alors du coup aujourd'hui je vous présente Escape.
Tristan, on associe à une histoire en plus un peu similaire parce que lui il a étudié les mêmes choses. C'est une boîte hyper tech. Hein, on est tous ingénieurs. Voilà. On a fait une grosse levée de fonds, donc comme je disais, avec des business angels cool et un fonds privé qui est très cool aussi. Et on propose là, c'est mon petit placement, on propose plein d'offres de CDI, de stage et d'alternance pendant. Venez sur escape.tech, on a une page de jobs.
J'ai vu de la déterre dans le chat.
Et venez aussi sur notre Discord, donc, si vous voulez.
Par contre, faut que tu tries les candidatures.
Ouais, va falloir
que annoncez ça sur live.
On va trier les candidatures. En général, on prend des gens plutôt niveau master, vous voyez, en informatique. Donc, pour l'instant, on a que des gens de Centrale, de Télécom Paris, de l'ENSET, de l'ENSTA, de Polytechnique, c'est des écoles assez solides, mais dans tous les cas, de toute manière, on a des tests de, on a des challenges techniques assez solides, donc on verra si les gens les passent. Et on serait ravis, de continuer à faire.
Je vous régale en stage, en job.
Il y a
des énervés dans le chat.
Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter direct sur LinkedIn.
Vous
pouvez venir chez moi directement.
Vous pouvez venir sur Discord aussi.
Je n'ai rien prévu la semaine prochaine parce que
Je prendrai le temps de tout regarder sur les messages évidemment pertinents. Je réponds pas à ceux qui veulent venir en vacances à Biarritz chez moi.
Dommage.
Il m'a foutu un vent.
Quoique.
J'ai essayé, il m'a foutu un vent.
Merci beaucoup Antoine.
Merci beaucoup.
Hyper intéressant. J'avais surtout moi vu les images sur Twitter et tout, mais avoir un peu les dessous de ce qui s'était vraiment passé, c'était hyper cool. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Je vous propose de passer désormais à notre petit débat du jour. On va parler de Facebook, la suppression. Avant de se lancer, pourquoi se poser cette question? Comme tu l'as dit, ça peut avoir un côté un peu trollesque, mais là, le contexte quand même est assez intéressant et inhabituel quand même. C'était au début de la semaine, donc Meta, qui est le groupe de Facebook, s'est effondré de 26% en bourse suite à l'annonce de ses résultats. Donc sur le dernier trimestre de 2021. Mm-hmm. Pour la première fois, Facebook a perdu des utilisateurs, 1 million, bon, sur quasiment 2 milliards. C'est sûr que c'est pas énorme, mais en proportion. Mais c'est la première fois que ça arrive quand même, donc actu. Meta a aussi annoncé des résultats qui sont plus faibles que ce qu'ils prévoyaient. A savoir que les résultats plus faibles que d'habitude, pour eux, c'est 39 milliards de bénéfices. Voilà.
Plus la merde. Ouais.
Nul à chier.
Zuc. Et surtout le Reality Labs, qui est donc l'entreprise de Meta qui s'occupe de toute la partie metaverse, etc., a perdu 10 milliards en 2021, ce qui, pour certains investisseurs, est pas hyper encourageant. Sur la trajectoire qu'ils espèrent, évidemment. Une des explications qu'ils ont fournies et qui est supposée, c'est une simple mise à jour d'iOS. Alors, vous l'avez sûrement vu sur vos téléphones, c'était iOS 11, si je ne dis pas de bêtises, qui a introduit un nouveau système qui permet de demander aux utilisateurs leur consentement avant de les traquer, tout simplement. C'est une petite pop-up et tu peux cliquer sur « Ask not to track ».
C'est pas iOS 11.
iOS 11, c'était 14.5, moi, il me semble.
iOS 11, c'était à peu près en 2009, je crois, de mémoire.
iOS 14.5. Exactement, c'est ce que je dis. Voilà. Et donc, c'est une des raisons supposées de cette perte. Le problème, c'est que le business de modèle de Facebook, qui est de vendre de la pub ciblée, dépend énormément de ce système de tracking.
Bien sûr.
Il y a une estimation qui a été faite sur la perte possible pour Meta sur 2022, donc sur l'année en cours, c'est 10 milliards qui seraient estimés en perte pour une mise à jour iOS.
Ça picote un peu quand même.
Pas agréable.
pour une petite mise à jour.
Ouais. Enfin, dans le même temps, Meta, donc Facebook, Instagram, etc., hein, a menacé de fermer ses services en Europe. Donc, ils ont... c'est pas de la supposition, ça vient de eux. Ça veut pas dire
qu'ils ont fait une annonce
réaliste. Voilà, on va en débattre, etc. Mais ils ont quand même fait une annonce en disant si ça se trouve, les gars, l'Europe, c'est fini. Nous, c'est ciao. On se casse. Le problème, c'est
ce qui paraît improbable.
Enfin, paraît improbable.
Ça, c'est
comme ça.
Fou que ça vienne d'eux, parce que moi, ça m'a fait penser aussi au moment où Facebook va devenir payant.
Oui,
envoie ce truc à tes amis. Si
oui.
Là, on a l'impression, c'est ça. Mais en vrai, comme tu le disais avec MSN, mais
ça vient de quoi Le problème, c'est que l'Europe ne veut plus donc annuler le Privacy Shield, qui était le système qui faisait qu'on pouvait porter des données européennes vers les États-Unis, etc. Ils ont invalidé ce truc-là. Maintenant, il y a des discussions pour remettre quelque chose de similaire en place. Enfin, on va pas rentrer dans le détail de la
juridiction.
Exactement. Mais en gros, Facebook, pas très content, explique que si on trouve pas une solution, eh ben eux, ben ils vont plus pouvoir fournir de services, puisque leur moyen de gagner de l'argent, c'est littéralement d'utiliser les données d'utilisateurs. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. D'où ma question. Selon vous, est-ce que c'est possible vraiment que Facebook disparaisse d'Europe? Tu n'y crois pas trop.
De l'Europe ou du monde?
Non, alors ça, c'est sur des projections beaucoup plus lointaines, on va dire. Mais à moyen terme, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est possible? Hard disk, qu'est-ce que tu...
Écoute, alors déjà pour remettre un peu de contexte, que j'ai suivi un petit peu cette histoire-là, concrètement, donc Facebook n'a pas dit qu'ils allaient partir de l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, comme toutes les grosses boîtes, ils ont des rapports financiers, et dans ces rapports financiers, ils sont obligés de tenir au courant les investisseurs des risques. Et dans les risques, il y a un risque actuellement de compliance avec le régulateur européen sur cette question effectivement des données. Donc voilà, c'était une bête phrase en fin de rapport, et c'est devenu un bordel. Ils ont refait un communiqué depuis pour dire... Les gars, on n'a pas menacé qui que ce soit. On a juste dit, comme 70 autres grandes entreprises, qui ont aussi communiqué dans ce sens-là, attention, il y a un risque qu'on n'ait plus de continuité de service en Europe à cause de cette décision du régulateur. Voilà, donc c'est pas genre Marc qui fait genre jamais, je m'en vais. On n'est pas là-dedans, tu vois.
Mais du coup, enfin, si 70 grosses entreprises, toutes américaines, je suppose.
Je sais plus.
Mais je suppose si c'est la loi qui est passée. Enfin bref, qui se sont réunis en disant. Là, ça nous va pas. Peut-être qu'on va pas pouvoir faire de business en Europe. C'est pas une menace, mais c'est quand même un gros consortium d'entreprises. C'est un lobby, comme tu dis.
Pour moi, ça pose la question de la régulation qui est intéressante. Et c'est cette question-là qui est intéressante. La question, c'est de savoir est-ce que c'est mieux de laisser les entreprises innover, quitte à ce qu'elles abusent, ou est-ce que c'est mieux de protéger la sécurité de l'utilisateur? Voire jusqu'à un point où en fait t'es tellement protégé que t'es plus vraiment protégé, t'es surtout empêché en fait. Et c'est une balance à trouver entre les deux. Chaque pays a sa balance. En France, on est plus sur la protection. Aux États-Unis, on est plus sur l'innovation. C'est compliqué, c'est difficile.
On va revenir tout à l'heure justement. On a noté de quelques points intéressants sur. Tu parlais d'innovation dans ce monde-là, du tracking, de la publicité, etc. Il y a Google qui propose des choses notamment. On va revenir là-dessus juste après. Antoine, tu dirais que sur la possibilité d'une disparition ou alors au moins d'un déclin qui se poursuivrait de Facebook sur les prochaines années, toi tu pronostiques quoi?
Comme l'a dit Hardix, moi je pense pas que ce soit possible en fait que Facebook sorte du marché de l'Europe. On représente à peu près 15% de leurs utilisateurs, donc franchement 300 millions d'utilisateurs comme ça qui partiraient, c'est trop dur pour eux. Ils auraient peut-être d'autres moyens de les financer. En revanche, un déclin des applications actuelles de Facebook, peut-être. Mais c'est aussi pour ça qu'ils visent d'autres marchés.
Ils n'ont pas besoin du régulateur pour ça. Hein.
Voilà, c'est ça.
Ils se débrouillent très bien.
Très bien. Voilà, tout à fait.
En étant éclatés.
Pour eux. Éclatés aussi.
Un déclin, ouais, bah, effectivement, on le voit de toute manière aujourd'hui. Hein. Facebook, c'est de moins en moins utilisé. Bon, on utilise tout ça à peu près Messenger, je pense, mais peut-être chez les plus jeunes, même plus.
Moi, j'ai plus Messenger.
Ouais, t'as plus Messenger.
Moi non plus. J'exagère. Ouais. C'est vraiment.
Celui-là encore, toi?
J'ai plus l'appli sur mon téléphone.
Ouais, c'est ça.
Mais toutes les deux semaines, je dois contacter quelqu'un où j'ai pas d'autre choix, quoi. Mais c'est plus sur mon téléphone déjà.
Voilà. Bon,
ils ont pas de téléphone, ces gens?
Ben parfois, c'est des connaissances trop éloignées pour.
Ah, moi, j'ai pas son téléphone.
Okay. Ouais. Quand même. Donc ouais, sur le déclin de Facebook, c'est un truc qui te paraît quand même possible.
Non, ouais, ça me paraît possible. Après, c'est pour ça aussi que Facebook travaille sur d'autres innovations. Bon, ils sont à fond sur les cryptos, le métaverse, le Web3, etc. Donc on verra ce que ça donne là-dessus. Parce qu'ils savent qu'ils vont devoir innover pour profiter de leur marché actuel et
de leur masse
d'utilisateurs autrement. Le marché de la data, Apple... Notamment, qui est de plus en plus Apple, franchement les outils Apple sont de plus en plus utilisés par rapport à quand j'étais petit. En tout cas, quand j'étais petit, j'étais tout seul, j'avais pas la cam sur MSN, tu vois. Aujourd'hui maintenant sur mon Mac, j'ai tout, quoi.
On te voit.
Ouais, voilà,
c'est vraiment l'innovation du siècle.
Non, mais voilà,
caméra,
c'est vrai qu'Apple, du fait qu'ils ont pas un business centré sur la donnée d'utilisateur, Apple, ils vendent du software, ils vendent des services, du hardware. La data d'utilisateur, ils en ont rien à faire, même s'il y a eu quand même quelques petits scandales avec Siri. Il y en a un autre qui est ressorti aujourd'hui avec Siri, ça pourrait être intéressant d'en parler aussi. Apple n'a pas besoin de business de la data, donc pour eux, ils bloquent tout et ils sont très fiers en fait de travailler sans données. Ça, c'est important derrière chez Apple.
Est-ce que vous trouvez ça normal justement que Apple ait autant de pouvoir, quoi, que en sa possession, ils aient un pouvoir de nuisance où ils peuvent appuyer sur un bouton et dire toi, c'est moins de 10 milliards maintenant. C'est quand même fou.
Ouais, moi, ça me dérange pas parce que c'est une position de marché naturelle en fait. Hein. Fondamentalement, on va dire les gens achètent ce produit Apple volontairement, choisissent. On rappelle que c'est pas Apple qui choisit quoi que ce soit. Ils ont mis l'option d'avoir un pop-up pour savoir si tu veux être traqué ou non. Donc les gens choisissent d'acheter, choisissent d'utiliser cette fonction ou non, choisissent de machin. Donc à partir de là, stop ou moins.
C'est vrai que non, mais c'est dur.
Tu vois, je sais pas, mais enfin, si tu te mets à la place de Facebook, enfin, il y a une nouvelle fonctionnalité, mais en plus, vous êtes un peu YouTube, c'est ça, vous êtes concerné. YouTube fait une nouvelle fonctionnalité et d'un coup, tes stats s'effondrent et ton chiffre d'affaires, il est divisé par deux. Fait chier, quoi.
Après, c'est comment tu le prends. Il y a plein de gens qui auront plein de réponses différentes. Ça n'a pas de sens. Je pense pas qu'il y ait de vérité universelle. Tu vois.
Non, bien sûr.
Personnellement, demain, je perds ma chaîne YouTube, ça ne change rien.
Bon, un peu.
Si, ça me fait chier.
Oui.
Ça m'emmerde. J'ai l'ego dans les chaussettes. ça me demande de me reconfigurer un peu pendant un mois. C'est tout.
YouTube, ils t'entendent là.
Non, mais voilà, je pense que ce que je veux dire par là, c'est que c'est important aussi de pas compter sur les autres et sur les services desquels on dépend, parce que c'est vrai qu'on a une dépendance, et de se dire comment je me configure moi et mon business quand c'est un business pour être sûr de dépendre le moins possible, en tout cas de spreader la dépendance pour que tu puisses perdre un bras sans perdre l'autre, tu vois. Enfin,
mais c'est assez fou que pour une entreprise comme Facebook, qui clairement c'est un mastodon, et il y a quelqu'un qui doit penser en mode. Qui doit penser non mais si ça arrive, ça impacte notre chiffre d'affaires et tout. Enfin, ils y pensent à ça. C'est quand même fou que à cette époque-là, quand ça vaut des milliards et tout, eh ben Apple a quand même la possibilité avec une mise à jour de faire un cut de 10 milliards dans.
On est tous en train de découvrir que Apple vend beaucoup de smartphones.
Enfin, mais oui, c'est un peu ça.
Savais qu'ils vendent quand même beaucoup de téléphones.
Et encore, ils sont en train de transitionner de ce modèle-là pour se déplacer vers un modèle de service. Dans un futur, on aura des iPhones pendant peut-être 5 ans.
Mais pour moi, c'est pas vendre des téléphones, c'est le pouvoir qu'ils ont via ce truc, via une mise à jour, ils contrôlent tout sur ce téléphone de la Z. Par exemple, Google, là, un petit peu moins. Par exemple, parce que beaucoup de gens utilisent Chrome sur les téléphones Android, mais tu peux utiliser d'autres navigateurs. Donc même s'il y a un truc, il lock une fonctionnalité dans Chrome, tu peux quand même télécharger Brave ou Firefox. Et tu vas pas être obligé d'avoir les cookies de Google, par exemple.
Il y a une boîte française aussi qui s'appelle Criteo. Je sais pas si c'est aussi quelque chose qui est un géant du ciblage, du reciblage publicitaire.
Je crois que c'est une des premières entreprises qui a fait de la pub ciblée.
Ouais.
Et elle est française.
Et en 2017, ils ont accusé un impact financier d'$1 million à cause de iOS 11. Donc
attends, c'est une boîte française qui fait du retargeting,
du retargeting, mais un géant.
Ils ont perdu un million
énorme de carton suite justement.
C'est rien du tout.
À la façon dont.
Ouais, mais c'était.
Ça veut dire que c'était énorme mise à jour.
C'était pas la même mise à jour.
C'était avant.
C'était 2017.
J'allais dire si un gigantesque groupe a perdu un million après mise à jour, ça va aller.
Non, ça c'était en 2017.
Je pense que c'était sur l'aspect.
C'est vrai que Google a perdu 10 balles dans la poche du président la semaine dernière.
Non, c'était pas la même mise à jour.
C'était donc le service de retargeting qui va fonctionner avec les cookies tiers.
Ouais.
qui ont été désactivés sur Safari.
D'accord, je comprends bien.
C'est ça. Oui. D'ailleurs, ça m'amène au sujet suivant, c'est les cookies, ces fameux cookies tiers qui permettent donc de faire du ciblage, donc de suivre le comportement des gens avec, par exemple, le pixel de Facebook ou Google Analytics, donc qui sont des petits scripts que les sites web mettent sur leur page, qui permettent de créer un profil de plus en plus complet, qui fait qu'à la fin, ils vous connaissent mieux que vous-même. Clairement. Et donc, ce truc-là, donc les cookies tiers ont été désactivés sur Safari, Brave, Firefox, je crois qu'au moins mitigé, et qui font que cette forme de retargeting est de plus en plus compliquée. Alors, ils sont très malins. Ils trouvent toujours d'autres techniques. Par exemple, ils vont faire du fingerprinting, donc
de l'empreinte.
Ouais, ils créent une empreinte du navigateur, de l'ordi, etc., avec un identifiant unique pour quand même.
D'ailleurs, Google réfléchit au monde après les cookies. Il y a le système de Flock qui sont en train de mettre en place pour dire que voilà, les cookies, ça va s'arrêter à un moment donné, quoi.
Et ben, c'est exactement ce dont je voulais parler. Pour éviter ce problème, ils ont essayé de mettre en place leur propre système intégré directement dans le navigateur. Donc, ils ont commencé avec une première tentative qui s'appelait donc, comme tu dis, les Flock. C'est Federated Learning of Cohorts. Donc, le principe, c'était de créer des groupes d'utilisateurs qui ont à peu près les mêmes goûts, sauf que bon, ils se sont fait vraiment flinguer par la critique, que ce soit côté grosse boîte de pub,
côté navigateur,
côté utilisateur
aussi,
navigateur. Comme tu dis, Brave, ils ont dit non, nous on l'intégrera
après,
pas.
Après, Brave, ils vivent un peu leur vie aussi. Hein.
Oui. On est d'accord. Du coup, c'était pas très bien accueilli, mais ils ont fait une nouvelle tentative. Ils ont littéralement dit, le nouveau projet intègre ce que nous avons appris des tests sur Flock, ainsi que les retours de l'industrie. Donc clairement, c'est un moyen de dire que c'est un échec. et donc le nouveau projet s'appelle Topics. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. On ne sait pas encore techniquement exactement comment ça pourrait marcher. Donc
déjà, quand un GAFA dit que c'est une proposition pour améliorer ta vie privée, en général, ce ne sont pas bons.
Ouais, je suis un peu d'accord avec toi.
De base, ça pue un peu.
C'est clair. Et en même temps, ils réagissent au backlash. Donc, ils sont pas totalement imperméables à la vie.
Mais leur business est tellement basé là-dessus, à Google aussi. C'est ça qui est fou, c'est que ce projet-là, pour eux, mais le moindre changement, ça a des impacts financiers monumentaux.
C'est pour ça qu'aussi ils se diversifient sur le hardware. Maintenant, ils font leur propre. Enfin, ils veulent faire leur propre processeur. Ils font leur smartphone. C'est aussi dans le but d'anticiper ce genre de...
Ah bah tu vois, j'avais pas conscientisé comme
d'ailleurs,
ça.
D'ailleurs, je rappelle que tout le monde ici peut aller sur son compte Google et voir ce que Google a tagué comme étant vos goûts. Vous pouvez le voir facilement, le lien, vous pouvez le mettre dans le chat peut-être. Et moi, les miens sont éclatés par exemple. Ils pensent que je suis homeowner, que j'ai 40 ans et que je suis un mec, mais que j'aime aussi la presse féminine, machin. Et ça me va très bien.
Alors, c'est aussi parce que je route mon recherche sur Google aussi.
Déjà, j'utilise plus Google. Et je route mon trafic sur Tor. Donc, je suis aussi un malade.
D'accord.
Alors que moi, il me connaît par cœur. Mais d'ailleurs, cette page est très flippante. Je crois que c'est le dashboard Google, un truc
comme ça.
Et il y a aussi les enregistrements sonores qui garde.
Oui, de My Activity.
Et ça, la première fois que je suis tombé dessus il y a quelques années, c'est flippant. Et à chaque personne à qui tu montres cette page, tombe sur les enregistrements vocaux de soi-même, elle est là en mode, mais what? Mais ça existe.
Tu le vois, genre, vendredi 8 janvier, toute hémorroïde.
Moi, c'est plutôt, mais un minuteur de 10 minutes parce que je me fais des pattes, mais
Non, mais ce qui est fou, c'est que c'est seulement la partie qui nous donne en plus, donc.
Ouais.
Voilà. Donc la proposition de Topics, vous l'avez dit, elle est hyper importante puisque eux, ils y jouent gros, quoi. Ils espèrent vraiment trouver un truc qui fera un peu consensus où les gens vont pas trop crier, ou moins le moins possible. Du coup, on sait pas encore exactement comment ça marcherait. Il y a des tests qui sont prévus prochainement. Officiellement, le but c'est de faire un système un peu moins intrusif que leur première proposition, évidemment moins intrusif que la façon dont les trucs de retargeting fonctionnent. J'ai un peu regardé dans le détail le projet.
Ouais.
Honnêtement, c'est quand même intéressant. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire que évidemment que les autres navigateurs, type à la Brave, les Firefox, les Safari, etc., sont sans commune mesure plus privés, plus respectueux de la vie privée en tant qu'utilisateur. Voilà. Donc ça, le conseil, il va jamais changer. Utilisez ce genre de navigateur, il y a aucun doute. Mais Chrome va passer potentiellement de éclater au sol à un tout petit peu moins pire, tu vois. Genre, non, mais techniquement.
Ah, tu as lâché le mot Chrome éclaté au sol. Ils sont si pires que ça.
Mais non, mais d'un point de vue de la vie privée,
en termes de vie privée, je peux même tenter un petit conseil et un peu extrémiste. Je vous dis pas de faire ça, mais essayez, parce que c'est devenu vachement bien. Essayez de router votre trafic par Tor. Non, mais vraiment. Non, mais je me suis mis à le faire.
Et vraiment, il y a le Tor browser sur PC et il y a Onion browser sur iOS notamment. Ouais. C'est plus si lent que ça.
Ah ouais, non,
c'est ok, tiens, tu vois. Il y a encore des sites un peu cassés, mais tu baisses le niveau de sécurité, mm-hmm. ce qui est pas ouf, mais bon, c'est quand même beaucoup beaucoup mieux que ce qu'on avait avant. Et c'est vachement sympa.
Bah non, mais écoute, je c'est la première personne que je rencontre qui l'utilise tout le temps, quoi. Ouais,
mais en fait, moi, c'est par défaut et quand ça marche pas, je retourne sur autre chose. Voilà.
Parce que bon, alors Tor pour expliquer, c'est effectivement un système de routage de réseau pour garantir l'anonymat en se baladant sur Internet, qui est notamment développé pour des journalistes qui sont à l'étranger, potentiellement dans des régimes qui surveillent tout ce qui se passe sur Internet, ou par des vendeurs de drogue, ou par un disque.
Voilà. Qui est également vendeur de drogue, donc c'est simple.
C'est vraiment les trois personnes sur ce réseau. Mais ouais, intéressant en tout cas la proposition de Google. Comme je dis, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard. C'est évidemment moins bien que pas de retargeting, mais c'est intéressant.
C'est à voir hein, ce que ça donne la après techno, l'usage.
Moi, ce que je trouve intéressant dans l'exemple de Google, justement, si on les compare un peu à Facebook, c'est que par exemple Google, ils sont méga malins. Il y a 10 ans. D'avoir lancé leur propre navigateur alors que personne ne les attendait à faire Chrome, et plus tard d'avoir misé sur Android et tout, parce que c'est grâce à des logiciels comme ça qui vont pouvoir potentiellement imposer un outil que Facebook n'a pas. Ça, Facebook, ils sont complètement dépendants des gens qui font les navigateurs, qui font les OS mobiles, et en fait c'est intéressant, c'est ce que tu disais, c'est que je me suis dit juste après, c'est peut-être pour ça que Facebook se dit on va tout miser sur le métaverse, parce qu'ils veulent peut-être leur endroit. Claire. Où ils seront enfin propriétaires, où ils pourront faire la pub qu'ils veulent.
Et tu sais qu'ils l'avaient déjà, ils l'ont perdu avant. Je sais pas si tout le monde se souvient d'ici, mais fut une époque, la grande époque de Macromedia Flash Player, où Facebook avait son App Store. C'est là où Farmville est né.
Ah mais oui,
il y avait un App Store. Il s'était contrôlé.
Il y avait des jeux surtout, non?
Il y avait plein de jeux sur Facebook.
Des quiz qui servaient à remplir des bases de données sombres de Cambridge Analytica. Il y avait tout un tas de trucs intéressants.
Oui, j'avais oublié ce nom.
Et Farmville. Farmville, mon pote.
Ah ouais.
C'est passé à la trappe.
Ouais. Mais je me tournais d'ailleurs sur Messenger il y a pas longtemps. J'ai l'impression que alors que ce soit ça ou juste n'importe quelle fonctionnalité un peu de base que tu penserais d'un truc de messagerie, genre faire des sondages.
Sondage, y a plus, non. Bah, on sait pas.
On peut plus faire de sondage sur Facebook.
Non, mais ça fait 2 ans, voire 3.
Ça vient de cette histoire de données, hein.
C'est vrai, okay, d'accord.
C'est lié au fait que, d'un point de vue légal, ils sont empêchés de faire plein de trucs comme avant, quoi.
Et c'est que en Europe ou c'est aussi aux US, du coup?
Ben, je sais pas. Je pense qu'aux États-Unis, il doit y avoir plus de fonctionnalités, effectivement.
Ouais, je pense.
Mais je crois que c'est aussi lié au fait qu'ils ont passé Messenger en end-to-end. Donc, il y a du chiffrement de bout en bout dessus. Okay. Et donc, ils peuvent plus faire ce qu'ils voulaient. Enfin, c'est très impressionnant, effectivement, la baisse de services qu'il y a eu. Tu parlais de la marketplace. Moi, je me souviens.
Après, il y a
une époque où on jouait à fond sur les conversations de groupe et tout. Bon, alors,
le truc de basket.
Ah oui.
Putain,
tu y as joué ou pas?
Ouais.
Et toi, ok.
Il y avait plein de jeux.
Le chat, est-ce que vous y avez joué?
En App Store et tout. Mais ouais, j'avais pas pensé à cette vision du métaverse comme zone de publicité où on est tranquille.
Ouais, où ils peuvent un peu tout contrôler, quoi. Après, est-ce que ça va marcher? Bon, ça, c'est encore un autre débat. Ouais. Mais
tu mets ton masque là pour, je sais pas, pour être dans ton métaverse tranquille et t'as des pubs pour Coca et tout.
Et peut-être. Et
t'as Mark Zuckerberg qui fait des gribouillis sur Bruno Le Maire, tu sais, sur un dessin.
Si ça se trouve, ça va marcher et Google va être dépendant de ce système où ils devront être parce que tout le monde y sera.
Ça sera
et ça sera Google qui sera dans la sauce, ou Apple d'ailleurs.
Ou Apple.
On s'en fout.
Je rebondis sur ce qu'on disait en tout au début d'intro, sur le fait que. Et un des moments où on a discuté un petit peu, c'était sur la vidéo où on parlait du système sur les claviers iOS et tous les claviers d'ailleurs, de prédiction des messages, etc., pour faire de la suggestion, pour faire un correcteur orthographique, etc. Et tu me disais, moi j'étais chez Apple, et justement, ce que moi je mentionnais vite fait dans la vidéo, que eux ils collectent moins de données, et du coup c'est plus galère d'un point de vue technique et tout. Moi j'ai dit dans ma vidéo, tu parles, c'est une excuse. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, tu me disais.
Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'effectivement, chez Apple, il y a une vraie fierté des ingénieurs à travailler sans données. C'est un vrai challenge. Il y a plein d'ingénieurs, ils sont là. Mais nous, c'est trop cool. On fait du machine learning, du NLP, de l'IA, etc. Mais on n'a pas de données. Donc, il y a tout un processus qui consiste à obtenir des données, mais qui sont pas des données des utilisateurs finaux. Donc, moi, j'ai une anecdote un petit peu intéressante, je pense, assez sympa. Quand vous recevez, par exemple, un billet de train, vous commandez un billet de train sur, ça s'appelle SNCF Connect maintenant. Ouais. A priori, ce billet de train, il s'ajoute automatiquement à votre calendrier. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée par en France. Enfin, elle est développée à Paris, celle-là, tu vois.
Je sais pas qu'il y a des ingés à Paris.
Si, ouais, il y a des ingés Place Diana à Paris.
Voilà.
Bah, je crois que ça, tu me dis si je me trompe, mais ça vient pas de Steve Jobs qui avait lancé une petite équipe à Paris pour l'iPhone ou je sais plus pour quel produit. Ouais, et ils ont gardé les locaux et du coup maintenant il y a des gens à Paris.
Effectivement, au départ, Apple France a toujours été un peu important. Bon, il y a eu des gens importants, Pascal Cagny, etc. Mais effectivement, au début, l'aspect, c'était du business, quoi. C'est que du commerce, marketing, etc. Et ce qu'il a fallu faire à un moment, c'était, par exemple, tester les prochains iPhones pour savoir s'ils fonctionnent bien avec Bouygues, Orange, etc. Il y avait besoin, en fait, d'être sur place. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'Apple a voulu recruter des talents là où ils étaient et pas forcément avoir besoin de les déplacer à Cupertino. Tout le monde n'a pas envie d'aller là-bas. Peut-être que dans le chat, les gens rêvent tous d'aller là-bas. Mais en fait, c'est pas non plus si incroyable que ça. C'est très cool, hein, c'est une expérience à vie, mais en France, il y a plein de belles choses aussi.
Ouais, la cantine n'est pas ouf, apparemment.
Voilà. la cantine chez Apple est ouf. Cupertino, c'était incroyable.
Petit point cantoche.
Ouais. Premier doc, zéro blague. Je veux bien en savoir plus sur la cantine d'Apple.
Moi, et pour l'anecdote, je suis vraiment allé qu'un seul jour sur le campus d'Apple à Cupertino. Ouais. Okay. Et en fait, ce campus, il a été conçu et pensé selon les désirs de Steve Jobs, qui a jamais pu y aller parce qu'il est décédé avant, malheureusement. Et Steve Jobs était fan de sushi, ok. Et il voulait qu'il y ait un maître sushi qui soit là pour faire des sushis sur place. Et donc, quand j'y suis allé, ce que j'ai voulu prendre, c'était absolument les sushis de Steve Jobs. Donc j'ai encore le ticket de caisse. Je suis vraiment un passionné parce que j'ai encore.
Il y a un chef sushi sur place, incroyable. Voilà.
Et après il y a d'autres comptoirs, il y a pas que des sushis. Hein, chez
vous voyez, il y avait une vraie anecdote.
Voilà. Ouais, bah oui. non mais c'est clair.
Et voilà.
Et c'était
sushi. Pas de relance, il y a pas de.
C'était, je pense, c'était les meilleurs sushis que j'ai mangé de ma vie. Je pense, c'était excellent. Il y a rien à dire.
Ah ouais, carrément.
Et j'ai mangé ça, au centre du campus, avec face. Il y a des photos sur internet face à l'arc-en-ciel d'Apple qui est au milieu du campus. J'en ai vraiment de très bons souvenirs. J'ai pas de photos de ça. C'était interdit que je prenne des photos. Je pouvais vraiment pas en prendre.
Ouais, les sushis sont sous NDA, hein, faut sushis, savoir. Hein.
C'est ouf, hein. Je pouvais même pas prendre des photos. Voilà, j'ai fait.
Mais alors.
En sortant du campus, j'ai fait un selfie, tu vois, juste avant de sortir, mais au moment, on me voyait pas. Donc, j'ai un selfie de moi avec le campus un peu loin derrière, mais j'étais quand même à l'intérieur. Ouais. Mais j'étais pas dans l'anneau. Dans l'anneau, c'était impossible
après,
de faire mon téléphone.
Tu t'es fait plaquer par la sécurité.
Non, je me suis pas fait plaquer.
Il y a très peu d'images de l'Apple Park sur Google Images pour cette raison. Parce qu'il est interdit de prendre des photos.
Mais alors, paradoxalement, j'ai quand même cherché sur Instagram. Si vous cherchez Apple Park, en fait, il y a plein de gens qui prennent des photos.
Okay.
Moi, j'ai juste suivi les consignes bien carrées, mais bon, après, j'étais tout le temps accompagné à ce moment-là. Donc, j'allais pas commencer à sortir là. Il fallait que la personne qui m'accompagnait me dise, tu prends surtout pas de photos.
Et j'avais lu une anecdote, on dérive complètement, mais il y avait un ingénieur d'Apple qui s'était fait virer parce que sa fille avait pris une vidéo. Dans la cantine, tu vois.
Ouais.
Dans la cantine. Et il s'était fait virer parce qu'on voyait je sais pas quoi sur la vidéo.
Ouais. Le nouvel iPhone.
Non mais
vraiment, pas de l'œil.
Je crois que c'était ça. Oui. Je crois que c'était le nouvel iPhone.
Je crois qu'on le voyait pas.
Sa fille a fait un TikTok avec le nouvel iPhone.
Ah oui.
Et c'est ça. Avec.
Dans la cantine et il s'est fait dégager des vidéos instantanément.
Attention. Mais alors c'était quelqu'un d'important.
Le nouvel iPhone, oui. Mais le nouvel iPhone avait déjà été présenté. Il avait juste pas été release au public. Il me semble dans mes souvenirs, mais je crois que c'était ça.
Donc, j'ai pas le détail.
Non, mais je crois que le détail c'était ça. Effectivement, donc c'était un nouvel iPhone qui avait déjà été présenté en keynote. Vous savez, il y a toujours deux semaines entre le moment où il est présenté et où il est vendu. C'était pile à ce moment-là. Et il s'est fait virer pour ça. C'était quelqu'un d'assez haut placé.
Ça c'est chaud.
Et effectivement. Sur l'anecdote, parce que là on fait des parenthèses. L'anecdote de base, c'est que cette fonctionnalité, pour remettre en contexte, parce qu'il y a des viewers qui sont arrivés entre temps, lorsque vous commandez un billet de train par exemple sur SNCF Connect, vous recevez un mail, ça s'ajoute automatiquement à votre calendrier. C'est pareil pour plein d'autres services à travers le monde. Là, je prends SNCF Connect, mais ils l'ont fait pour des billets d'avion, plein de choses. Voilà, pour vraiment avoir cette interaction avec votre calendrier, c'est hyper pratique d'ailleurs, parce que moi je prends beaucoup le train d'ailleurs. Je me sers beaucoup de cette fonctionnalité là. Et il s'avère que ce que fait Apple, c'est qu'ils payent ils outsourcent ça, ils payent des gens pour commander plein de billets de train, un peu à des endroits random, des billets d'avion, etc. à travers le monde. Et comme ça, ils ont des données, c'est des vraies données comme si c'était des vrais users, mais en fait, je crois qu'ils, globalement, ils prennent l'assurance, pour ensuite annuler tous les billets derrière. Mais au moins, ils ont les données, des vrais mails qu'ils ont reçus et ils s'entraînent comme ça.
Imagine quand t'es la pizzeria, achète les Léal, qui se prend un espèce de 300 invités. C'est que et alors, hop là!
C'est que pour des grosses boîtes, des gros services.
Donc, c'est-à-dire que plutôt que d'utiliser leur vraie base d'utilisateurs et leur vrai comportement et regarder ce qu'ils font, ils payent des cohortes d'utilisateurs
ouais.
pour
enfin des cohortes
si...
ouais de ouais c'est même pas des cohortes d'utilisateurs, c'est vraiment des boîtes où ils ont des employés qui font que ça, ils commandent des billets,
ils commandent des billets pour nourrir les algorithmes de machine learning.
Voilà. C'est quoi ton travail? Je commande des billets de train pour nourrir les algos d'une autre boîte,
c'est ça.
Et vraiment une autre boîte après.
Ouais, c'est un peu ça. Non mais c'est ça. C'est assez ouf. Et après il faut savoir effectivement,
s'ils commandent des billets de train dans un truc genre autour d'un train autour de Noël normalement blindé. Et là, t'as Apple qui a acheté le train, en fait, y a personne.
Imagine le jour où Apple va découvrir l'automatisation, surtout. Y a une industrie entière, mon pote, ils sont à Pôle emploi demain matin.
Ouais, c'est assez, je pense, c'est assez, finalement, c'est assez complexe de s'adapter au, ouais, à tous les jours de site et tout. C'est pour ça que finalement, ils le font comme ça.
Et du coup, effectivement, je suis allé un petit peu vite en disant que c'était simple de pas avoir beaucoup de données.
Mais cependant, pour me rétorquer, et ça c'est vrai, il y a eu plusieurs scandales avec Siri. D'ailleurs, j'étais pile en stage à ce moment-là avec Siri.
Ouais.
Et effectivement, il y a eu un scandale des écoutes de Siri, donc c'est en 2019. Et il y en a un nouveau qui est sorti, je crois, ce matin, où vraiment, ce qui s'est passé, c'est que Apple écoutait les conversations, enregistrait les conversations Siri, les anonymisait, écoutait et regardait que la translation en fait qui avait été faite par la dictation, enfin que la dictation était bonne, vous voyez. On entendait des gens parler, ils regardaient que le texte que Siri avait bien écrit était le bon.
Okay.
Et il y a des gens qui servaient de ça pour essayer d'améliorer Siri. Donc ça a fait un scandale à un moment parce que ça s'est su du jour au lendemain. Moi j'arrivais dans le bureau, ils étaient vides, c'est qu'ils avaient dit aux toutes les personnes qui faisaient cette activité de plus le faire. Donc c'était très bizarrement, j'avais des gens je croyais tous les jours, d'un coup ils étaient plus là, tu vois. Donc moi je savais même pas ce qu'ils faisaient.
Parce qu'en fait,
ils étaient à Guantanamo les mecs, on les a fait disparaître.
Non, je savais même pas ce que ces gens faisaient. Et quand tu arrivais,
je les écoutais des extraits
ouais.
de gens chez eux.
Ouais, flippant, okay. Après avoir dit Siri quand même. Donc ouais. C'était seulement
mais on sait que oui, tu viens de les déclencher
Ça
on sait que ça se déclenche parfois sans faire exprès et du coup tu peux tomber sur, c'est-à-dire que ces gens-là, ils pouvaient parfois écouter des gens s'engueuler ou faire des choses personnelles, ou à mon avis c'est ça qui avait fait du bruit.
Ouais, il y a eu ce scandale en 2019. Apple a temporairement du coup dit à tous les gens qui faisaient ça de pas revenir en attendant qu'ils trouvent une solution. Dans une version d'iOS, ils ont proposé au moment du voilà, vous voyez, vous avez un modal de configuration au début d'iOS, ils disent est-ce que vous voulez améliorer Siri, oui ou non. Si tu dis non, normalement tes données sont pas envoyées. Ouais. Et il s'avère, le scandale vient d'éclater, j'ai pas encore eu trop le temps de lire les articles, que ce matin, il y a des chercheurs en sécurité qui ont trouvé qu'avec iOS 15,
même si tu décoches.
Et bien, depuis iOS 15, même si tu décoches, ça envoie quand même les données à ton insu.
Les bâtards.
Ouais. Et alors, moi, je peux pas dire si c'est vrai ou pas, je peux pas vérifier, mais en tout cas, je viens de voir les articles passer, à voir comment ça évolue. Et Apple vient dans la dernière bêta d'iOS 14, de remettre le modal pour que tu recliques dessus pour corriger le bug. Donc, c'est quand même un truc, on voit qu'il y a une vraie difficulté.
C'est plus un bug de config qu'une volonté d'être méchant, quoi.
Non, mais je pense. En tout cas, c'est comme ça que c'est communiqué. Ouais. Moi, je pense que c'est vrai parce que, honnêtement, ce qui est vrai que, honnêtement, tous les ingénieurs avec qui je discutais, ils étaient fiers de travailler sans données.
Mais c'est clair. Non, mais je pense que ça fait partie de leur com. C'est pour ça, effectivement, que ça marche et que beaucoup de gens, à choisir entre Carib et Scylla, veulent pas passer sur Fairphone et sur OS.
Tu veux pas un libre M5?
Mais tu déconnes, mais il y a des trucs qui sont pas sûrs.
J'ai vraiment envie d'avoir un libre M5. Ouais. Vraiment, j'ai envie de tester.
Mais
c'est une boîte qui s'appelle Purism et qui fabrique des ordi portables et des smartphones 100% open source, je crois hardware open source aussi, qui sont particulièrement axés vie privée.
Ok.
Mais on en commandera et puis on.
Non, mais vraiment envie de tester parce que je connaissais pas ce
alors il y a 120 jours d'attente actuellement.
Un plaisir.
Pour clore le sujet, je vous propose une dernière question. On a parlé de Facebook, on a parlé de Google, on a parlé d'Apple, de leurs différentes approches suivant les sujets, etc. Selon vous, si vous deviez faire un pronostic à genre 5 ans, c'est quelle boîte qui a le...
5 ans, c'est court.
5 ans, c'est court. 5, 10 ans. Mm-hmm. Quelles sont les sociétés où vous dites c'est possible qu'elle ait disparu? Quelle société vous dites elle va tout péter? Quelle société aura pas bougé?
Dans les GAFAM?
Ouais, c'est ça. Faut choisir. À chaque fois.
Ah, c'est pas facile.
Les GAFAM, rappelle-moi, c'est Google, Amazon, Facebook.
Là, je dirais déjà Facebook, Google, Microsoft, Apple. Pour le côté un peu vie privée, etc. Parce que tu vois, Amazon, ça, c'est dur. Un peu différent.
Oh, Amazon, ils ont Alexa qui se déclenche tout le temps et qui t'écoute tout le temps aussi. Hein.
Oui.
Dans les 5 prochaines infos, moi, je dirais que ça va pas bouger, en fait.
Rien?
Non.
Rien
je pense pas beaucoup. Pas beaucoup. Celle qui, selon moi, va surperformer.
Microsoft, c'est compliqué parce que Microsoft, en fait, si tu veux, ils vendent des calculatrices. Mais non, mais c'est pas du tout péjoratif.
Je suis pas d'accord. Moi, je pense que justement.
Non, attends, Microsoft... attends, parce que du coup, tu me coupes sur ça, je passe pour un machin.
Mais tu dis, ils vendent des calculatrices. Moi, ça me déclenche, tu vois.
Non, mais dans le sens où, en fait, c'est tellement le backbone de plein d'entreprises qui font des trucs très corporate, du tableur, du serveur d'échange de messages, tous des trucs auxquels on touche pas tous les jours, nous, forcément, que, en fait, les voir disparaître, ça me paraît improbable, en fait, tu vois. Donc, c'était pas du tout péjoratif.
Il adore les calculettes.
Mais non, mais c'est juste Microsoft, c'est le, ouais. Voilà, quoi. Non, Facebook, c'est ceux qui sont le plus en galère, mais en même temps, ça veut rien dire. Ils ont aussi WhatsApp et Instagram. Le metaverse.
Le chat dit Meta s'effondre dans 10 ans.
Mais oui, mais parce que tout le monde,
mais c'est parce que c'est un peu en vogue de dire ça, je pense.
Si on
c'est
en vogue. Réalités,
ouais, c'est en vogue. Non, mais surtout, ils ont de la marge avant de s'écraser, hein. Ouais.
Alors, oui, mais est-ce qu'ils ont pas pris un vrai risque avec leur histoire de tournant, là, réalité virtuelle, Meta, metaverse, machin et tout? C'est pas méga risqué pour
eux. Moi, je trouve ça un peu casse-gueule.
Moi, je trouve
bien
ça
pareil.
Pas bien fait. C'est le problème. Le problème, c'est que les gens, tout l'intérêt de tous ces techno Web 3 et blockchain, c'est que, et metaverse, machin truc, tout est, c'est un peu.
Mais même réalité virtuelle et tout, je vois ce qu'ils veulent faire, mais.
En fait, le problème, c'est que personne n'a envie d'être dans le petit jardin fermé corporate de Mark Zuckerberg. Tu vois? Personne n'a envie d'avoir ces nouvelles technologies qui, justement, te proposent de voir une autre réalité, d'avoir plus de liberté, finalement, de posséder tes données dans le cadre de la blockchain du Web 3.0.
Mais dans le jardin de Mark.
Mais avec un gros bracelet électronique, tu vois, avec Mark qui fait aboie! Aboie! Tu vois? Genre, personne ne veut
mais
ça,
alors,
en fait.
Si ça se trouve, il y a des très bonnes techno, et si ça se trouve, elles sont pas portées par la bonne entreprise, comme tu dis.
Exactement.
C'était peut-être pas Facebook.
Ou alors, ils sont juste pas assez ouverts.
C'est peut-être
ou alors ça va faire un bide monumental.
C'est ça. Tu dis à quoi en chrono sur les bon alors on sait que tu as Apple dans ton
ouais, cas particulièrement. J'avoue. Après vous parlez de Metaverse mais Apple travaille aussi à fond sur la réalité virtuelle hein, donc,
et Google aussi de ouf.
Voilà, je pense qu'ils vont plus être en concurrence en fait sur le même marché. Après effectivement c'est très
mais
difficile.
Mais peut-être que Facebook a fait l'erreur de communiquer à outrance dessus. En fait c'est peut-être juste ça.
Tim Cook a un peu communiqué dessus. Il a dit moi ce qui m'impressionne vraiment aujourd'hui c'est la réalité virtuelle. Il y a des rumeurs comme on dit que dès que Apple sera bien lancé sur le marché de la réalité virtuelle, Tim Cook va partir à la retraite.
Ça sera son
voilà ça sera son dernière voilà ouais. C'est ça exactement. Difficile à dire. On verra qui propose la meilleure utilisation de la réalité virtuelle.
Mais non, c'est très vrai ce que tu dis. Il y a eu une erreur de communication de la part de Meta, je trouve, qui est que ils ont parlé du métaverse de manière générale. Ils ont pas focus, contrairement à ce que fait Apple, qui est beaucoup plus malin, qui est de focus sur un use case.
Bah ouais.
Apple, on sait tous qu'ils vont sortir des lunettes. On sait, je ne peux pas confirmer.
Je sais pas,
je peux confirmer.
Non, mais je suis plus. Ouais, voilà. D'après les rumeurs, effectivement, lunettes et casque.
Et ça va être assez lifestyle, assez etc. Meta, ils ont fait genre, c'est un nouveau monde virtuel révolutionnaire dans lequel tu peux voir tes amis. C'est excellent, frérot. voilà. Il y a pas un use case où on se dit ah trop bien, tu vois.
Pas encore.
Je sais pas si vous avez vu, il y a le premier mariage sur Metaverse qui a été fait.
Alors ça a été fait bien avant. Je t'assure que ça a été fait sur Dofus en 2002.
J'avais Second Life en tête.
Sur une réalité virtuelle, ça c'est cool. Ça a été communiqué récemment. J'ai trouvé ça l'anecdote un peu chelou, mais c'était pour apparemment pour raison de Covid.
Mais c'est ça aussi. C'est dès qu'il y a une news autour du métavers, il y a un petit côté chou.
Ouais,
il y a un petit côté.
Il y a un mec qui a vendu une barrette de shit dans le métavers, un mec qui a ouvert un truc, un machin.
Il y avait une news, c'était la première agression sexuelle dans le métavers.
Ah, c'est pas mal.
Ou non, harcèlement, pardon. La première harcèlement moral ou sexuel, je sais
Mon
plus,
petit pote,
dans le métavers.
Vous avez rien
t'es là
inventé.
En mode, ça donne pas envie, quoi.
Mais t'as jamais ouvert VR chat.
J'ai jamais ouvert VR chat.
C'est une agression.
L'agression sexuelle de point l'application, tu vois.
C'est vraiment.
Ok.
C'est le principe de la
vie. Je suis d'accord.
Mais tu sais, on n'a rien inventé, tout s'est déjà passé aux apps d'Astrub. Concrètement, c'est le chat. Ouais, c'est une ref.
C'est quoi ça?
C'est Dofus.
D'accord.
Ah, okay. Je l'avais pas.
Oui, bah aussi.
Je suis le vrai gros geekos avec un oreiller waifu ici dans cette pièce.
C'est terrible. J'ai jamais joué à Dofus, j'avoue. J'ai peut-être raté même. Très intéressant ce débat. Des avis évidemment partagés. C'est très compliqué de faire des pronostics sur le futur. On a vu le chat qui était assez confiant sur la disparition de Meta.
Ah oui, eux, c'est acté, c'est signé, c'est...
C'est un échantillon non représentatif, évidemment.
Comment ça, notre chat est pas représentatif?
Bon. Les gens qui participent. Bon. Il va falloir attendre plusieurs années, évidemment, pour avoir les débuts de réponse. On va commenter tout ça sur Underscore, n'est-ce pas? Pour savoir qui tire donc son épingle de ce jeu complexe de tracking, de...
C'est Game of Thrones, hein?
C'est GOT, exactement. On va passer, mesdames et messieurs, à un petit jeu que nous a préparé notre cher Mathieu. C'est pour cette raison que nous avons des buzzers. Je vais te laisser expliquer.
Alors, des buzzers qui ont été achetés aujourd'hui même par notre nouveau stagiaire.
Voilà.
Qui a fait des stories. Et qui a vlogué.
Si vous voulez voir les aventures du buzzer.
Ouais, voilà. Si on a des buzzers, c'est grâce à François, notre stagiaire, qui a fait des stories toute la journée pour trouver des buzzers dans Paris.
C'est... Et à ça, j'ai envie de dire aux stagiaires.
V à toi.
V à toi.
Grand V. Voilà, pour finir avec cette émission, Mathieu, on passe au petit jeu. C'est parti.
Questions et des réponses. C'est très simple.
C'est factuel.
Vous posez des questions et vous allez me donner des
réponses.
Allez, oui. Et non pas l'inverse.
Et non pas l'inverse. Si je vous donne des réponses.
Les buzzers indiquent la rapidité.
La prochaine fois, on fait
ouais,
ça.
Ouais, je pense.
Oui, les buzzers indiquent la rapidité. La prochaine fois, on fait des réponses et des questions. Je vous donne des réponses et il faut trouver des questions. 100%
ça
on le fait.
Pas mal, hein.
100% on le fait.
Faut être rapide, mais faut donner la bonne réponse aussi.
Je vais tout vous expliquer. Okay. Ce sont des réponses en rapport avec la tech. Évidemment, vous avez un buzzer devant vous. Donc, quand vous avez la réponse, vous appuyez dessus.
Ça va.
Je vous donne la parole.
Pour tout le monde, ça ressemble à ça quand on appuie sur le buzzer du coin. C'est au cas où vous ayez par mal. Au cas où vous ayez par mal. Mais ça marche.
Elle est en train de perdre actuellement 1500 viewers. Donc, je vous donne la réponse.
Attends,
la parole.
Attends,
oui, c'est bon. Le mien marche aussi, Mickaël. Aucun problème.
Ça s'entend bien.
Oui, attends, oui, ça va. C'est aucun problème.
Allez, du coup, avant de donner votre réponse, je vous donne la parole et après vous donnez votre réponse. Sinon, ça, je pense que ça va être
promis.
Un gros bonsoir. Je vais compter les points ou je vais essayer de compter les points.
D'abord, on va le faire.
Donc, à la régie, si jamais, essayez de compter de votre côté, mais je m'ouvre une petite note. Allez, je m'ouvre une petite note. Je fais ça. Mickaël, tu n'as pas le droit de regarder le chat.
D'accord. Oui, d'accord. C'est vrai.
Parce que sinon, c'est triché. Ah, Hardisk aussi.
Qui n'a normalement pas le droit de regarder. Ne regarde plus le chat. Tu n'avais déjà pas le droit de regarder.
Et d'ailleurs, dans le chat, essayez de répondre. Et le premier qui trouve la bonne réponse ne gagne absolument rien. Parce que l'émission n'est pas sponsorisée.
Voyage au magazine offert par Mickaël en personne.
Mais non, mais vous pourrez être fiers de vous. Voilà. Peut-être que parfois on gagne un cookie. Voilà, il gagne des cookies.
Dis pas ça parce que le stagiaire va l'envoyer par Chronopost. Après, ça va faire chier tout le monde.
Allez, on est parti.
Allez.
Première question à vos buzzers. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Quel est le dernier Français à avoir obtenu le prix Turing, prix qui récompense des avancées majeures de l'informatique? Vous pouvez appuyer pendant la question. Prix considéré comme le prix Nobel de l'informatique. En vrai,
Mickaël, la date juste.
La date 2018, c'est très récent.
Non, non, je veux dire, nous on aurait dû deviner la date, c'est déjà plus facile. Parce que...
Alors,
attends.
Parce que Ardis, je sais pas. Mickaël, je sais que tu vois qui c'est.
Ah bon?
Antoine, je sais pas. Oui.
C'est lui. Luc Julia.
C'est pas Luc Julien. C'est pas Luc Julien. Oh, alors, ouais.
Kempf, le mec de VLC.
Non. On a essayé. C'est pour plus pour Mickaël. Ouais.
Le mec qui a fait Shadow.
Non. On a.
OVH.
Non, non, mais.
Non. On a essayé. On a essayé de l'inviter.
On a essayé de l'inviter.
Il y a un mail qui est parti un jour.
Xavier Niel.
Là, c'est trop facile pour lui.
Oui, c'est un peu plus facile pour lui, mais sinon, personne ne va trouver. Il y en a qui l'ont dans le chat, hein. Il y en a qui l'ont coupé. Bah après ils ont Wikipédia, oui, également.
Ils ont également internet.
En fait, je suis trop nul en nom.
Il travaille chez Facebook. Ah, tu l'as.
Oui, je l'ai.
En gros, c'est le directeur des recherches IA Facebook.
Plus j'ai regardé des vidéos.
Ah oui, moi aussi en plus du coup maintenant.
Il s'appelle, je vous donne la réponse, Yann Lequin.
Alors,
tu le connaissais Hardisk ou pas?
Non.
C'est que c'est un de nos plus gros cracks français.
Ouais, bien sûr.
Vraiment, c'est
lui.
Oui.
D'accord. Voilà. Et ben enchanté.
C'est un peu le père de l'IA mais genre mondial quoi. C'est
génial.
C'est en France. Voilà. Question dure.
Didier Raoult.
Didier. Deuxième question. Quand a été publié le livre blanc du Bitcoin écrit par Satoshi Nakamoto?
Oui. 2009.
C'est une mauvaise réponse.
Ah. 2008.
Nakamoto.
Vas-y.
Non, mais t'as pas le droit.
Bah, 2008, du coup.
Mais c'est le principe du jeu.
C'est 2008.
Bah, du coup, c'est moi qui l'ai.
Ouais,
oui. 2009, c'est la release de Bitcoin Core.
Exactement. C'est le 31 octobre 2008. C'est un peu la date qui est
bien joué.
C'est
peut-être mon seul point, donc je le prends.
Bien joué.
Bitcoin. Je note un point.
2067, mais complètement.
Antoine. Je donne vraiment ça comme un papier.
Merci. Ça me fait plaisir.
J'avais hésité entre les deux, donc
ça me fait plaisir.
Ok. Ok.
C'est tout le principe, hein, de vraiment de
du quiz.
De passe pas mais.
Quel est? Oui, mais en fait, c'est le bruit qui est insupportable.
Qui est très très drôle.
Qui est en même temps très drôle.
Ça vaut les points.
Indice. Concentration. Quel est le plus vieux langage de programmation de haut niveau faisant abstraction du matériel sur lequel il tourne? En gros, ça veut dire, c'est pas l'assembleur. Parce que c'est des trucs qui marchent avec du matériel.
Fortran?
Oui, monsieur.
Oh putain, bien joué.
Oui, monsieur. Fortran.
Deux points.
Et j'ai appris que Fort. Ça veut dire Formula Translation et que ça a été créé en 1954. Donc en fait, ça a une signification, Fortran.
Voilà. Et moi, j'ai appris que mon papa, il faisait ça quand il était jeune.
Ouais. Trop non. Mignon, ouais. Sérieux?
Oui, et il faisait des cartes électroniques. Et je me souviens que, enfin, ils m'ont raconté que ma maman l'aidait à percer des cartes électroniques.
Mais what?
Pour ses études.
Mais tu es beaucoup trop mignon.
Bah non, bah c'est eux, hein, c'est vrai. Et du coup, il est passé comme ça dans une machine et ça lisait les trous aux bons endroits et ça effectuait la bonne.
Incroyable.
La bonne instruction, quoi.
Donc, ton papa, il aime déjà l'informatique.
Ou alors, c'était vraiment obligatoire à l'école.
Ok, d'accord, c'est ça.
Plus beaucoup après.
Quatrième question.
C'est parti.
Quatrième question. Quelle est la deuxième distribution Linux après Ubuntu à être la plus utilisée?
Red Hat.
Oh oui monsieur.
Oh là là,
parce
oui,
que
monsieur.
C'est commercial.
Parce que c'est alors c'est une distribution comme tu l'as dit plutôt pour les professionnels et pour les serveurs d'entreprise. Voilà. Après Ubuntu, c'est la deuxième. Alors c'est selon des données statistiques Alexa de 2019 parce qu'en fait, il y a pas de stats.
OK. Ouais, t'as vaguement DistroWatch.
Ouais, voilà. En fait en fonction des classements, tu pourras trouver d'autres trucs, mais en vrai Red Hat c'est quand même méga utilisé. Un point. Pour la Discos. Et toujours zéro.
Moi,
hein.
j'ai rien.
Toujours zéro
bah
pour
alors, l'informatique. Micode, ça code plus beaucoup.
Pour le Michael.
La
ok.
Monte.
Cinquième question. La société Red Hat. On entre un petit peu. Ah, qui édite la distribution Red Hat de Linux. S'est fait racheter 34 milliards de dollars en 2018.
Ah oui.
Mais par quelle société s'est-elle faite racheter?
Oracle.
C'est faux. Ce n'est
après,
pas
on peut
Oracle.
Tenter, hein.
IBM.
Attends, parce que c'est qui qui avait... C'est toi qui avais
appelé? C'est moi, IBM.
C'est tout à fait IBM.
Ah, bien.
Il est bon.
Ouais.
Non, mais il suit l'actualité au jour mais le jour, Hardis. Et là, ça se voit.
C'est comme si c'était mon métier sur l'émission twitch.tv/Hardis le lundi, mercredi, vendredi à 18h.
Mais c'est vrai que je pense que la petite veille tous les deux jours te met archi bien.
Ouais. Ouais.
Par contre, t'enregistres aussi plein d'infos, Osef.
Après, c'est en 2018. Michael avait finalement 13 ans.
C'est vrai. Pardon. Il met passé son brevet des collègues quand même.
Vous inquiétez pas, il regarde pas le chat. Il n'a pas vu.
Non, il regarde pas.
Non, j'ai pas
il y a que Mickaël, je peux pas vérifier qu'il regarde pas, mais je pense qu'il regarde pas.
Toute confiance.
Point score, 2 points. 2 points. La bulle.
El Bulito.
El Bulito. El Bulito pour Mickaël. Sixième
personne
question.
Personne n'aura de pizza, écoutez-moi bien.
Oh,
si j'ai zéro, personne n'a de pizza.
Oh, les pizzas. Allez, on lui est sympa. Petite question filée sur IBM. IBM a longtemps été un fabricant d'ordinateurs. Elle s'est concentrée. IBM a longtemps été un fabricant d'ordinateurs. Elle s'est aujourd'hui concentrée sur les services. Quelle société a racheté la division informatique personnelle d'IBM?
HP.
C'est faux. Ce n'est pas HP.
Non,
attends.
Terminé.
Ah ouais, on va demander
à.
On est bien.
C'est toi qui as besoin.
Alors bon, non, évidemment, le chat, ils l'ont tous.
Je fais quoi du coup? Je lance une
réponse.
T'as dit quelque chose? Non, j'ai buzzé. Je lance une réponse ou pas?
Non. Moi, pour l'instant, on laisse Mickaël et Antoine. Donner une réponse.
Ah oui, d'accord. Je suis ban en fait.
Ouais.
Je suis shadow ban du jeu.
Parce que sinon, t'es trop bon en tryhard.
C'est vrai qu'on peut tryhard et tenter des trucs, mais là honnêtement.
Non. Vas-y. Non mais attends.
J'allais dire Lenovo.
Oui.
Oh bien joué.
Et c'est vrai.
C'est fort.
On a tenté de me souffler la réponse. Mais vraiment, j'allais dire.
Ah, mais t'as une oreillette?
Oui. Mais j'ai
jamais. Attends, quoi?
Vous êtes obligé de me croire. Mais j'ai jamais dit.
Enlève-la pour la suite.
Non,
enlève-la. Non, mais attends.
Ouais, d'accord.
Putain, on avait j'avais oublié.
La régie, pas de pizza.
Vous êtes.
Alors, Arthur, est-ce que je sais qui parle dans l'oreillette de Michael? C'est Arthur. Arthur, pas de pizza. C'est mort.
Arthur, pas de pizza.
Donc, c'est le chinois Lenovo en 2005 pour 1,25 milliard de dollars. Et donc du coup aujourd'hui ça s'appelle les ThinkPad qu'on peut acheter et ça vient d'en fait d'IBM.
D'accord.
C'est marrant, c'est des grosses news mais c'est pas forcément des trucs qu'on retient. En
non
plus,
c'est clair.
Ouais. Oui parce que je pense
que ThinkPad c'est assez populaire même.
Alors ThinkPad
il y a
ouais.
beaucoup de devs
ouais,
qui
tient
ça ouais.
Et tes petites boules là au milieu.
Petite boule. c'est vrai. Mais ça veut dire que ça marche leur truc.
J'ai jamais encore.
Parce que les
gens qui l'utilisent. Moi je sais qu'il y a un vrai game de gens qui utilisent ça.
Mais c'est vraiment bien en fait.
Ah, aussi bien.
Bah, je te crois.
Mais ça se trouve, ils le gardent juste pour l'identité visuelle que ça apporte et que, tu vois, tu viens d'en parler en mode, ouais, c'est les petites boules. Ça se trouve, ça marche.
Ouais, trop stylé.
Mais je sais pas, j'aimerais voir quelqu'un.
C'est le premier point pour le Mickaël.
Oui, alors, c'est, si vous me croyez, du coup.
Mais... Oui, non, oui, mais on te croit. On veut des pizzas.
On veut des pizzas. On te croit. Septième question. Il y en a 10. J'ai pas dit, mais il y en a 10. Alors là, ça va être la rapidité. Hein. Parce que je sais qu'il y en a un autour de la table qui a la réponse. Comment s'appelait le site sur lequel nous pouvions streamer en 2007 comme on le fait actuellement?
Justin TV.
C'était trop simple. Et qui a donné naissance 4 ans plus tard.
Créé ce quiz pour
Twitch.
Elle était pas pour moi, celle-là.
Celle-là, elle était pas pour toi. Celle-là.
A voulu, tu l'as créé avec Hardisk.
Et en fait, Twitch était une entité séparée. Je l'ai créé avec Hardisk, je lui ai donné la réponse avant. En fait, Twitch était une entité séparée de Justin TV consacrée aux jeux vidéo. Elle a dépassé son grand frère. Et aujourd'hui, on fait un talk show sur Twitch.
Justin, c'est okay. Fou ça.
Et aujourd'hui, c'est un peu la boucle bouclée.
On peut même lâcher son Prime sur la chaîne de Micode aujourd'hui.
Wow. Oh,
on est con, tant d'évolution.
On renvoie l'ascenseur. Allez, on lâche les Prime. Allez,
la thune du chauve.
C'est le point pour Hardisk qui prend la tête. 3 points. Si mes calculs sont bons, je suis à 3.
Ouais,
2,
c'est ça.
1. Est-ce 0. Que mes calculs sont bons?
C'est ça.
Mes calculs sont bons. Ils font mal, mais ils sont bons.
Ils sont bons. En fait, je pense
dur, mais juste.
Ah, si. Non, si, c'est bon. Parce que ça fait 6 points. On a fait 7 questions, mais Yannick, vous avez pas répondu.
Tout oui. À fait. En plus, c'est celle sur Yann Lequin, je suis pas fier de moi, là.
Ouais, non, mais tu connaissais aussi Yann Lequin.
Ouais, bien sûr, mais j'ai pas été bon, là. C'est pas venu, quoi.
Huitième question. Il y a un petit piège. Comment s'appelle le créateur de Justin TV?
C'est en filet, en plus.
Ah, il s'appelle,
Le prénom.
Bah, il s'appelle vraiment Justin.
Il s'appelle vraiment Justin, c'est un piège.
J'avais pas son nom de famille, mais oui.
Mais oh, il est bon aussi. Il y a que lui qui s'est entraîné à faire des jeux.
D'ailleurs, anecdote, il a aussi créé, je crois, Y Combinator, qui est un accélérateur de start-up.
Non, ah, c'est non.
Je crois, ouais.
What?
En tout cas, il est lié à Y
Combinator. Alors, je veux bien qu'en région, on vérifie ça.
Je suis pas sûr de ma connerie, mais ouais.
Qui est le plus gros
checking.
Justin Kahn, c'est ça son famille?
C'est tout à fait. Oh, putain, t'es bon. Mais what? Alors, c'est Justin Kahn et Emmett. Cher, parce qu'ils sont deux, en fait. Donc, vous auriez pu me dire Emmett aussi.
Ils étaient quatre.
Mais, et Y Combinator, qui est le plus gros incubateur au monde, finalement, hein. De startup
prestigieux.
Mais très, très prestigieux.
Quel beau.
Oui, il l'a créé, ou il a bossé avec eux, je sais plus, mais il y a un bail avec eux.
Alors, du coup.
Il est passé devant la rue une fois.
Non, mais je suis pas sûr. La recherche sur Google une fois, je crois.
Je suis pas sûr de mon info, donc.
Alors, du coup, dites-le par texte, la régie, parce que Miguel n'a plus son oreillette. Donc, il va pas pouvoir avoir l'info.
Effectivement.
Voilà, c'était la 8e question. 9e question. Et c'est du coup un point pour toi.
Ouais, quoi, 4.
Hein. Oh là là.
Il prend la tête.
Ouais, là, tu es trop.
Et puis là, il va falloir être rapide les deux autres. Parce que c'est, je vois les questions, c'est des questions où il peut être bon.
C'est que pour un disque en fait.
Non, attends, il y avait des trucs sur IBM et tout.
D'accord.
La mer noire.
Quel réseau social a refusé deux fois de racheter Facebook en 2005?
Non. Alors, de se faire racheter par Facebook.
Quoi?
Non, de racheter Facebook.
Quel réseau social a refusé?
Mais t'allais dire quoi? Non, t'avais la main.
A refusé de racheter Facebook?
Ouais, tout à fait.
Un réseau social a refusé?
J'en ai un, là. Après, c'est
bon. En gros, on lui a fait une offre.
Pour racheter Facebook?
Pour racheter Facebook. Mark Zuckerberg est arrivé. Est-ce que vous voulez nous racheter tant?
Non, c'était moi.
Il a buzzé avant.
Ok, t'as pas de réponse?
Vas-y, moi j'allais dire Snapchat. Mais parce que
ce n'est pas Snapchat.
C'était dans l'autre sens, en réalité.
C'est tout à fait MySpace.
Oui. MySpace.
MySpace a refusé deux fois de racheter Facebook en 2005. Première offre, 75 millions de dollars de la part de Mark Zuckerberg. Ils ont refusé. Quelques mois plus tard, alors que Facebook avait évolué, etc., 750 millions. Donc 10 fois plus.
T'imagines en quelques mois, le seum intense, quand t'as raté l'offre.
Non, mais je pense que...
C'est incroyable.
Tu vas passer après l'entièreté de ton existence à te bouffer les doigts.
Si j'ai bien suivi, je voulais pas savoir parce que t'étais même pas né, quoi.
C'est ça.
J'aime bien. Eh bien, on a bien choisi celui-là.
Eh, parle-lui d'Avril Lavigne.
Alors ça, c'est une private joke.
Non, on va pas l'expliquer.
On va pas expliquer. Et au final, deux ans plus tard, Microsoft, et je l'ai appris, a acheté en 2007 1,6% de Facebook pour 240 millions. Donc Microsoft,
alors,
ils ont toujours des parts dans Facebook, mais eux ils ont un peu plus de pif, tu vois. Et peut-être que s'ils se sont relancés là récemment, c'est grâce à Facebook. On sait pas. 4 points, 3 points, 1 point.
Donc toi t'as perdu.
Oui.
Est-ce que vous voulez on peut pas faire de bonus sur la dernière question parce que c'est une question à la con. Dernière question. Dans le chat, il va falloir être rapide. Quel youtubeur s'est récemment fait cryptoloquer son as de marque Kuna?
Hardisk.
Hardisk, yes! C'est tout à fait le Hardisk. Est-ce que tu veux nous en parler, Hardisk?
On n'a pas fini encore de s'en sortir.
Ah bon? C'est toujours en cours, cette histoire?
Toujours en cours, mais parce qu'en fait, on fait un changement d'infrastructure total et ça prend du temps.
Moi, je suis curieux de savoir s'il est toujours sur le réseau, cette merde.
Oui. Mais en fait, t'inquiète, il peut rien t'arriver. C'est une fin zéro day de Kunap.
Est-ce que tu peux remettre un peu de contexte? Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2-3 minutes?
Il y a un payload qui tourne sur une machine de réseau.
Non, mais ils sont.
Je pense qu'on le débranche par hasard.
Ils s'en vont après. Non, mais t'inquiète.
T'inquiète, on leur fait confiance.
C'est vraiment le. T'inquiète. Je gère. Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai un as Kunap pour travailler avec mes équipes et il se trouve que pendant que j'étais au CES à 13 000 km d'ici avec 9 heures de décalage horaire et en train de faire une vidéo par jour, j'ai appris qu'on s'était fait cryptoloquer le NAS. Alors au début tu te dis ah ben hard disk, tu as utilisé des mots de passe de genre poisson 1 2 3, ou alors tu n'avais pas de doubloute, ou alors tu mettais pas à jour ton NAS. C'est faux, il y a juste eu une faille zero day chez Kunap, c'était pas la première.
Donc en fait, c'est ça visait les NAS de marque Kunap.
On ne pouvait rien faire, on était sur la dernière mise à jour, on était sur tout ce que tu veux, on s'est fait niquer et c'est compliqué. On a un backup partiel qu'on est en train de restaurer, ça prend du temps, il y a des téraoctets de données et on est en train de changer notre infrastructure pour une solution que je ne vais pas citer ici pour des raisons évidentes de sécurité par l'obfuscation. Donc voilà, mais ça prend du temps.
Et je t'annonce.
Quelle sauce.
Franchement. Que tu t'es certes fait cryptoloquer ton as. Mais, si je peux mettre un peu de joie dans ton cœur, tu as gagné ce quiz. C'est quand même, c'est quand même pas mal.
J'ai quand même dit hard disk, alors que j'étais pas censé savoir ça, moi. Vous étiez plus censé le savoir que moi.
C'est vrai que du coup. Ah oui, il y aurait égalité avec toi. Démerdez-vous.
Le chat, donnez-nous une question bonus, tiens.
Question bonus du chat.
Ici, il y avait la question. Qui est-ce qui live le lundi, mercredi et vendredi à 18h
matin? C'est moi qui l'ai eu. Ouais, mais c'est moi qui l'ai dit.
Alors, en deux mots, c'est quoi le crypto lock? Concrètement, vous vous faites chiffrer l'entièreté de vos données avec une clé qui est jetée à la poubelle, donc ils vont conserver précieusement et qui vont vous échanger contre une rançon, tout simplement.
Voilà. C'est un ransomware sur un NAS, en fait. Sur un NAS.
Et effectivement, un NAS est un endroit particulièrement adapté puisque c'est un serveur de stockage où c'est là où on met souvent, je sais pas moi, les rushs vidéo, les documents très importants.
Moi, j'avais 3 vidéos qui étaient pas encore sorties qui se sont fait loquer, avec dont une interview d'un mec qu'on pouvait pas re-shooter. Et on a réussi à les retrouver dans des backups partiels. Enfin, que moi, toute mon équipe quasiment est en télétravail. Donc, j'ai dû appeler mon monteur en l'erga, en mode, t'as pas des backups si sur mon ordi à Rennes, machin, une merde, une aventure. Oh là là là. Une aventure.
Courage.
Voilà, Léo, big up, hein, bien sûr.
Ben, on espère voir ces vidéos un jour.
Écoutez, je n'ai plus de questions, sauf si vous voulez prendre une question bonus du chat, mais
Moi, je suis chaud, j'aime bien les buzzers.
Ouais, mais alors...
Il a râlé. T'as râlé alors qu'on rallonge l'émission.
Parce que j'en ai marre de ce buzzer, moi.
C'est vrai. Mais tu sais que je l'ai pré-shot un peu avant l'émission, mais ça va être insupportable.
Bah, il y a moi et des buzzers. Excuse-moi, mais le calcul était pourri de
base. Oh, il y en a une, elle va te plaire. Qui est Avril Lavigne.
Moi, je ne sais pas, en tout cas, visiblement.
Vous m'expliquerez par un épisode.
Ah, je vous aime, putain.
Ah là là. Bon, ceux qui n'ont pas la ref, il fallait être là sur un précédent underscore. C'était même la saison d'avant.
Exactement.
Vous avez qu'à follow Micode, ça suffit maintenant.
C'est exactement une belle transition pour cette outro. N'hésitez pas à follow cette chaîne Twitch pour voir les prochaines émissions d'Underscore. C'est le mercredi, ça commence à 19h. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir l'ensemble des rediffusions, et vous avez des rediffusions complètes pour le coup en podcast sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes. Voilà, Antoine, est-ce que une petite annonce pour clore?
Alors moi je voudrais juste dire j'ai deux employés qui sont fans.
Bah trop bien.
Alors, un ancien stagiaire Alexandre, donc big up à lui. Et j'ai Maxence qui rêve de te rencontrer, donc big up à lui aussi.
Et ben on l'invite.
Et je crois avoir reçu un petit message pendant le live de Quentin aussi, qui m'avait pas dit qu'il était fan, mais il est fan aussi.
Bah, donc, Quentin, ça fait 3. Bernard.
Non.
Quentin, Maxence, on vous envoie des posters dédicacés de
Alexandre.
Je
te rends compte avec Micode.
Ça roule. Ouais. J'ai noté le call to action de Hardisk, mais c'est mort. Normalement, c'est le moment où tu dis ton call to action, mais c'est mort.
Tu vas faire mon call to action?
Non.
Lundi, mercredi, vendredi, super, on est où? Je suis de la
Il est vraiment bon.
Mathieu, des pizzas.
Avec grand plaisir. J'ai très très chaud pour des pizzas. C'est mon code d'action, moi, c'est les pizzas.
Pour la préparation de cette émission laborieuse. Merci beaucoup à vous dans le chat de nous avoir suivis. Et puis voilà, vous pouvez suivre, je vous l'ai dit, Twitch, YouTube, les coulisses sur Instagram pour savoir comment François, notre stagiaire d'élite, est allé récupérer ses buzzers de l'enfer dans tout Paris. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut.
Ciao.
Bye bye.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.